What happens now? When the darkness I see, you'll be waiting for me. Across Jordan.
Yeah.
Nous allons maintenant lire le message intitulé « Les noms blasphématoires prêchés en 1962 par Frère Bonhomme ».
This was kind of a
surprise. Frère Neville, c'est un peu une surprise pour moi.
Je n'étais
pas censé être ici aujourd'hui, mais ce soir, c'est le soir où nous avons la communion, et j'ai pensé venir faire un tour ce matin. J'ai appelé Frère Neville et il a dit, « Eh bien, alors si vous venez, a-t-il dit, pourquoi ne pas nous parler un peu? » Et je me suis dit, eh bien, si j'y vais et que c'est possible, je ne vais pas prêcher, mais simplement parler à l'Église pendant un petit moment des choses qui, vous savez, à mon avis, fortifieraient l'Église. Nous venons tout juste de rentrer de notre partie de chasse d'automne, les frères et moi, et là, nous avons passé de moments glorieux. Nous sommes très reconnaissants, chacun de nous a été comblé, et nous avons attrapé les gibiers que nous voulions, et notre pasteur et moi savons que du gibier, c'est très, très bon. Alors, nous avons attrapé de beaux cerfs. J'ai attrapé un ours et deux cerfs, et nous sommes revenus. Et c'est censé être le moment où je dois prêcher sur les sept derniers sceaux. Mais les frères n'ont pas préparé l'Église. C'est à cause de quelque chose, d'un empêchement. S'il a eu quelque chose qui les en a empêchés, il y a quelque chose, un empêchement qui a causé cela. En fait, je pense que la ville nous donne du fil à retordre parce que nous n'avons pas suffisamment de place de stationnement par rapport au nombre de gens que l'Église compte accueillir. Nous voulons ériger une nouvelle Église ici et nous avons déjà une bonne partie de l'argent prévu à cet effet et c'est pour construire une plus grande Église. Mais quand nous avons eu ces réunions, eh bien, vous comprenez ce que c'est vraiment pitoyable. Les gens se tiennent le long des murs, dehors, sous la pluie. Et c'est tout simplement terrible. Aussi, je reçois des critiques de même de mes amis. Ils disent, Frère Branham, un médecin de mes amis a dit, on dirait qu'il vous faut trouver de la place. Il a dit, ça me fait de la peine quand je passe par là. Ma voisine, qui est infirmière, m'a dit, eh bien, je suis passé par là un matin à 5 heures. Vous étiez censé être là-bas. Et elle a dit, les gens se rassemblaient déjà autour de cette église là-bas à 5 heures du matin. Vous étiez censé être là à 9h30. Alors, voyez-vous, ça rend les choses difficiles. Il nous faut une église spacieuse où on peut faire soit tout le monde, et nous pensons que nous vivons dans les derniers jours, nous le croyons, que là où nous devrions enseigner à l'Église, ces choses qui prennent forme, ces choses qui avaient été prophétisées depuis des milliers d'années pour certaines d'entre elles, et depuis au moins 25 à 30 ans dans cette Église, il y a des choses qui avaient été prophétisées et qui devraient s'accomplir. Maintenant, nous voyons qu'elles sont en train de s'accomplir. Alors, nous devrions rappeler ces choses, mais nous n'avons pas cette place. Alors, ce matin, hier, j'ai reçu des gens en audience et je recevrai encore quelques-uns cet après-midi et tout. Hier, j'ai eu à passer des appels et tout, et j'en ai encore à passer cet après-midi et tout. Puis, il y a des gens qui voulaient venir, un jeune homme charmant qui vient d'avoir une dépression nerveuse. C'est un frère dans le ministère qui œuvre dans les champs de mission, et beaucoup d'autres comme lui, et un frère de Norvège. Et nous avons eu de petits entretiens là, dans la pièce du fond, et j'ai dit, eh bien, maintenant, sortons un peu. Et Frère Neville a dit, eh bien, nous irons dire quelques mots pour affermir un peu l'Église. Voici l'une des premières choses que je tiens à dire. J'ai écrit ici sur du papier certaines choses que je tenais à dire dès que je serai de retour à l'Église. Une de ces choses concernait le départ de notre bienveillant frère Taylor pendant notre absence. Frère Taylor a fréquenté cette église pendant de très nombreuses années. Nous le connaissons tous, j'en suis certain. Mais s'il se trouve qu'il y a des visiteurs ici, il s'agit du précieux bonhomme qui vous trouvait un siège pour que vous puissiez vous asseoir, Frère Taylor. La dernière fois que je l'ai vu de ce côté, jusqu'à ce que je le revoie en tant que jeune homme, il était debout là, à la porte. Il y a environ 3 ou 4 dimanches, il a dit, « Je voudrais avoir quelques brochures, Frère Branham. Je voudrais distribuer ces brochures. » Alors, à ce que j'ai compris, il avait le diabète et il est entré dans le coma et n'a pas. J'ignorais qu'il avait le diabète et c'était. Il est mort. Il n'est pas mort. Il est simplement allé rencontrer le Seigneur Jésus. Et il était un fidèle et merveilleux frère, toujours soucieux des autres. Et son plaisir était de pouvoir trouver une place pour faire asseoir les gens quand ils venaient à l'église. Et vous savez, peut-être que quand nous franchirons la barre, ce serait agréable, n'est-ce pas, de voir Frère Taylor là-bas, occupé à nous trouver une place pour que nous nous asseyions là-bas, de l'autre côté. Je pense qu'en commémoration de Frère Taylor, je n'étais pas présent lors de ses funérailles pour parler aux côtés de Frère Neville. Mais j'aimerais adresser un mot de reconnaissance à sa veuve. Sœur Taylor, je suppose qu'elle est ici quelque part ce matin, qu'elle soit bénie. Frère Taylor m'a dit un jour, « Venez me voir là-haut. » J'ai creusé un petit lac là-haut et j'ai mis quelques poissons pour que vous puissiez venir pêcher, toujours soucieux des autres. Et il y avait quelqu'un qui était soucieux de lui, c'était Christ, pour lui donner le salut. Je pense qu'en commémoration et au nom de cette Église aussi, nous qui sommes rassemblés comme un corps ce matin, levons-nous tous ensemble et inclinons la tête devant Dieu. Notre Père céleste, nous, en tant qu'êtres humains, ce matin, ceux qui fréquentent ce lieu d'adoration, ta grande main est passée parmi nous et a pris l'un de nos précieux frères que nous aimions et que nous aimons. Et nous savons que tu l'aimais aussi. Et tu avais une raison pour tout cela, Seigneur, sinon ce ne se serait pas produit de cette manière. Car nous savons que notre Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et c'est ce qu'il faisait. Nous regardons dans le monde et nous voyons que la nature nous enseigne à tous égards. Elle nous dit que la tombe ne peut pas le retenir, car sur la terre, il a accompli le but pour lequel tu l'avais envoyé ici. C'était un frère loyal et bon. Nous voyons cela dans le cycle de vie des végétaux et dans le cycle de vie du soleil qui se lève le matin pour nous donner la lumière. Au milieu du jour, ce soleil a atteint la moitié de son âge et le soir, ce soleil meurt de nouveau et ne se relève que le lendemain matin, frais et renouvelé, parce qu'il a accompli le but de Dieu. Nous voyons que les fleurs s'épanouissent et embellissent la terre, décorer les salons funéraires, les lieux de mariage et accomplir leur but. Elles œuvrent leur cœur et donnent gratuitement du miel aux abeilles, du parfum aux passants et de la beauté à celui qui en cherche. Tout ce qu'elle possède, elle le met au service de Dieu, puis elle incline sa petite tête. Mais quand vient le printemps, elle repousse parce qu'elle a accompli le but de Dieu. Alors, eu égard à la nature tout entière, à la Bible, à la promesse et au Saint-Esprit, nous pouvons nous réjouir grandement dans notre cœur, Seigneur, de savoir que notre frère Taylor aussi a accompli le but de Dieu. Et dire qu'il ne ressusciterait pas reviendrait à renier notre Bible, notre Dieu et tout ce que Dieu nous a donné en référence pour que nous sachions qu'il y a une résurrection. Alors nous attendons impatiemment le moment où nous le reverrons, alors qu'il sera jeune et en bonne santé et qu'il ne sera plus jamais malade et ne vieillira jamais. Bénis sa précieuse épouse, sa fidèle compagne. Oh, combien ils nous manqueront pendant longtemps, Seigneur. On ne verra plus aller ensemble à l'étang et s'installer là sur de petits bancs à pêcher et à causer. Oh, combien ils étaient de vrais amoureux. Et maintenant, nous savons que le grand jour vient quand les héros de la foi défileront sous la glorieuse arche de triomphe et que les anges rempliront les airs de leurs hymnes. Nous les reverrons là-bas. Jusqu'à ce moment-là, Seigneur, donne-nous du courage, bénis-nous et aide-nous. Frère Taylor nous manquera pendant longtemps, ainsi qu'à tous ceux qui fréquentent cette Église, puis qu'ils se tenaient debout à la porte et qu'ils trouvaient une place à celui qui venait écouter la parole de Dieu, afin que ce dernier s'asseye et s'installe confortablement. L'autre jour, quand il est passé de l'autre côté, Seigneur, j'ai prié que le grand archange de Dieu se tienne là à la porte pour lui trouver aussi une place, Seigneur, afin qu'il puisse s'asseoir. Car il est écrit dans la Bible que les miséricordieux obtiendront miséricorde. Jusqu'à ce que nous le revoyons, Seigneur, fais que nous te servions de bons souvenirs dans nos cœurs. Jusqu'au jour où nous nous rencontrerons de nouveau dans l'autre pays. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il nous manquera pendant longtemps, ainsi qu'à nos visiteurs et autres qui viennent à notre église ou à ce bâtiment ici pour adorer. Que son âme repose en paix devant Dieu jusqu'à ce jour-là. Un de ces jours, nous partirons aussi, un à un, nous quitterons ce chemin de cette manière-là. Maintenant donc, pendant que nous avons le temps et que nous pouvons le faire, préparons-nous pour ce temps qui vient, car nous ne savons pas quand ce moment viendra. Nous ne savons pas qui sera le prochain. Vivons chaque jour de telle manière que s'il arrivait que ce soit notre tour d'être emporté, que nous soyons prêts. Maintenant, j'aimerais faire des annonces. Eh bien, bientôt, peut-être, je n'ai pas encore discuté avec les administrateurs depuis mon retour au sujet de l'état d'avancement des travaux de construction de l'Église ici, ou de ce que nous devons faire ensuite pour préparer notre Église afin de tenir nos réunions. Après quoi, j'irai de l'avant, excusez-moi, avec les sept sceaux et les sept coupes et bien d'autres choses que nous devons aborder immédiatement. Et maintenant, dimanche matin prochain, je suis censé être à Elizabethtown, dans le Kentucky, chez frère L.G. Hoover, pour un service de dédicace. C'est pour dédicacer un nouveau tabernacle, ou plutôt un tabernacle qu'ils ont acheté à Elizabethtown, dans le Kentucky. Tout au long de la route 62 qui va jusqu'à Elizabethtown, ou plutôt, je veux dire, la route 31, ou en passant par l'autoroute à péage, tout juste à l'embranchement, cela vous mène à Elizabethtown. C'est environ une heure, c'est environ 35 ou 40 000, 60 km par là. Il me semble que c'est environ 40 000, 60 km de toute façon sur la route 31, et environ 35 ou 40 000, 60 km, ou quelque chose comme ça, si l'on emprunte le chemin qui passe par l'autoroute à péage, ça se trouve sur la route Mulberry. Le service de dédicace, frère Hoover fera l'école du dimanche à 10 heures comme d'habitude, et je devrai prêcher au service de la dédicace de 11h30 dimanche prochain, le 11 novembre. Sur le tableau de l'affichage qui est là dehors, vous trouverez les détails là-dessus, et ce sera là vous pourriez voir l'itinéraire. C'est sur la rue Mulberry, ou plutôt les indications étaient données dans le... Ça se trouve là dehors, sur le tableau de l'affichage qui est devant l'église. Alors, le 22 novembre, je suis censé être à Shreveport, en Louisiane, le 22, le 23, le 24, le 25 et le 26. 5 jours durant, je pense, à Shreveport, en Louisiane, au Life Tabernacle. C'est chez Frère Moore. Ils célèbrent leur jubilé d'or. Le 22 de ce mois, ça fera 50 ans que la bénédiction de la Pentecôte était descendue à Shreveport, en Louisiane. Ça fait 50 ans que le premier message pentecôtiste a été prêché. Il était descendu, le Saint-Esprit était descendu en Louisiane et il commémore cela comme c'est le jubilé d'or. Et au cours de ce jubilé, je dois prêcher pendant 5 soirées chez Frère Moore au Life Tabernacle à Shreveport. Si vous avez des amis de ce côté-là qui vous voulez bien écrire ou quelque chose comme ça, eh bien, ils seront contents de les avoir. Parlez-leur simplement des réunions qui auront lieu. Et au Life Tabernacle, si quelqu'un y a déjà été, Frère Moore est un homme merveilleux. Et là-bas, il y a un merveilleux groupe de gens, ces braves gens du Sud. C'est pratiquement impossible d'en trouver de meilleurs qu'eux. Et donc, le Life Tabernacle, tout le monde à Shreveport peut vous indiquer où ça se trouve. Shreveport a environ 200 000 habitants. Et c'est une belle ville où on trouve plein de services. Alors, c'est un grand tabernacle, un très grand tabernacle. Il y a des étages, des balcons, des salles principales et une autre salle en plus. Il y a tout simplement beaucoup de place. C'est juste en face de la salle municipale qui peut accueillir 5000 personnes. C'est exactement comme traverser cette rue pour aller à la salle municipale. Le révérend Jack Timor, ou bien le Life Tabernacle à Shreveport, en Louisiane. Ça commence le 22. Ce sera le jeudi à dimanche, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours au lieu de 5. Excusez-moi, ce sera le 22, le 23, le 24 et le 25. Je pense que c'est ça le programme en novembre. Et alors, nous ferons ensuite l'état des lieux pour voir où on en est par rapport à notre église ici afin de déterminer l'état d'avancement du projet de construction de l'église. Les intrapreneurs nous disent qu'ils peuvent mobiliser tant d'ouvriers qu'en 10 jours, le bâtiment sera presque terminé pour que nous puissions y entrer, voyez-vous, très rapidement. Et tout ce qu'ils attendent, c'est l'approbation de la ville. Vous savez, nous devons avoir tant de place pour le stationnement et tant de ceci. Et oh là là, il faut passer par tout un tas de tracasseries administratives avant de commencer à construire quoi que ce soit. Mais j'aimerais retourner à l'église avant de repartir dans le champ de mission. Eh bien, j'ai reçu des invitations pour aller au Tanganyika, en Ouganda, et un peu partout là-bas. Joseph a tout mis sur pied pour que cette série de réunions commence en février. Hier, quand je suis arrivé, il y avait quelques frères, sœurs Tom et les autres, qui étaient venus de l'étranger. Et j'ai trouvé une note sur ma porte ou une invitation d'une association basée en Afrique du Sud. Alors, je vais leur écrire pour voir ce qu'on peut faire. Peut-être que comme je serai si loin, je pourrais faire un saut en Afrique du Sud, probablement vers fin février ou début mars, par cette époque-là. Et nous espérons que l'Église sera prête pour que je puisse aborder les âges de l'Église avant que l'hiver s'installe, si possible. Sinon, ce sera quand je reviendrai de là-bas, si le Seigneur Jésus tarde. Hier, plutôt avant-hier, je crois quand j'écoutais une bande, je pense l'avoir entendu jouer ici ce matin. C'était à propos d'un jeune frère du Sud qui avait... Sa mère avait été aux réunions. Elle avait une tumeur maligne à un sein et elle était recouverte de l'ombre de la mort. Et le Saint-Esprit, dans l'une des réunions qui se sont tenues récemment à Southern Pines, je crois, ou ailleurs, lui avait parlé de sa tumeur maligne en lui disant qui elle était et d'où elle venait. Et il lui avait dit qu'elle avait un garçon qui était un rétrograde et qu'il allait avoir un accident et qu'il serait accusé d'homicide involontaire et un tas de choses semblables. Et ce garçon, tout cela est arrivé exactement tel quel et son cancer malin, ou plutôt sa tumeur maligne, l'a quitté. En fait, une tumeur maligne est un cancer, vous savez. Ainsi donc, cela l'a quitté, et le garçon a comparu pour homicide involontaire et tout, exactement comme le Saint-Esprit l'avait dit. Et il a été de nouveau conduit à Christ. Et il a enregistré tout cela sur une bande, et je l'ai entendu jouer. Avez-vous aimé ce bon vieil accent du Sud? Il disait ici, en Caroline du Sud, disait-il. Oh, que je les aime, ces braves gens du Sud. Et il avait que le Seigneur le bénisse davantage. Il a dit, je sais ce que vous dites, que vous ne prêchez pas de doctrine, frère Branham, excepté aux gens de votre assemblée. Il a dit, nous faisons partie de votre assemblée. Alors, c'était bien gentil de sa part de dire ça. Maintenant, il y a une photo qui, je crois, a peut-être été affichée sur le tableau d'affichage ce matin. Sinon, Billy l'affichera là-bas. J'en ai parlé à maintes reprises. Quand j'ai commencé à en parler au tout début, les gens ont dit, frère Branham, c'est juste votre imagination. Quand vous dites que vous voyez cette lumière, il y a probablement très peu de Il y a peut-être encore quelques-uns ici, les vieux de la vieille, qui s'en souviennent avant que des photos de cela soient prises. Y a-t-il quelqu'un ici qui se souvient que je disais ça depuis très, très longtemps? Regardez, seulement 4 ou 5 mains. Sœur Spencer qui est ici, frère et sœur Slaughter, le frère qui est ici, et le frère qui est là-bas, il n'en reste plus que 5 ou 6 des vieux de la vieille. Eh bien, maintenant, au bout de quelques temps, l'œil mécanique de l'appareil photo a capté cette photo. Alors, on l'a envoyé à Washington, D.C., et des experts l'ont examiné et nous l'ont renvoyé. Aucune double exposition ou quoi que ce soit, ils ont déclaré que la lumière avait frappé l'objectif. Il s'agit de Georgie Lacey. Son nom est écrit au bas de la signature, voyez-vous. Eh bien alors, bien des fois, vous m'entendez dire, je regarde et je dis, il y a une ombre noire qui recouvre cette personne. Elle est recouverte de l'ombre de la mort. Combien m'entendez, je vais dire? Maintes fois, voyez-vous, maintes fois, eh bien, c'est arrivé que l'appareil photo capte cela. Et donc, nous l'avons cela ici. La dame qui était venue vers une sœur et qui lui avait dit, lors de la série de réunions en Caroline, où nous avons eu cette merveilleuse série de réunions à Southern Pines, et là, la dame se mourait de cancer aux deux seins et les médecins l'avaient condamnée. Et la dame s'est penchée et lui a pris une photo tout juste au moment où je lui disais qui elle était et d'où elle venait. Et j'ai dit, vous êtes recouverte d'une ombre noire. Vous êtes recouverte de l'ombre de la mort. Et la dame a pris cela en photo. Et voilà que l'œil mécanique de l'appareil photo a capté l'ombre de la mort. Si jamais vous avez vu le film « Les 10 commandements » et que vous avez vu l'ange de la mort, comme il avançait cette ombre sombre et lugubre, elle se trouve sur cette photo. Et je pense qu'en ce moment, c'est affiché au tableau d'affichage. Sinon, Billy m'entend, eh bien, qu'il aille afficher cela au tableau d'affichage. On y voit des flèches qui indiquent la personne. Et cette personne, cette ombre a quitté cette femme. Elle a été miraculeusement guérie. Mais il y a comme un capuchon, une fumée sombre qui s'est rassemblée sous forme de capuchon au-dessus de la dame. Elle est suspendue là, au-dessus de ce cancer, comme ça, et ça a entré par là. Bien entendu, c'est aussi par cette ombre que la mort se déverse en elle à travers ce cancer. Eh bien, peu importe combien vous essayez de dire la vérité aux gens, il y aura quelqu'un qui soupçonnera que ce n'est pas la vérité. Et si vous dites toujours la vérité, alors vous savez que vous avez raison. J'ai un ami qui est un propriétaire de ranch dans l'Ouest et le service de protection de l'environnement a acheté une motoneige à près de 4 000 $ pour compter le troupeau de wapiti qui était resté dans la Troublesome Valley. Monsieur Jeffries, qui est assis ici à l'église, je l'ai conduit à Christ alors qu'il était un parfum fidèle et il m'avait entendu raconter cette histoire où nous faisons une partie de chasse ensemble et lui, ne croyant rien d'autre que la morale de Darwin, cet enfant né d'une vierge, c'était une absurde. Et l'autre soir, nous avons campé à l'endroit même où il avait accepté Christ. Ainsi donc, cet homme leur a dit, il a dit, « Eh bien, vous n'avez pas besoin d'acheter cette automobile, cette motoneige. » Il a dit, « Je vais vous dire exactement combien de wapiti se trouvent là-bas. » Il a dit, « Il y en a 19. » Il a dit, « Il y en avait 20. » Il y en avait 21 et j'en ai tué 2. Et là, il parlait aux gardes-chasse. On est autorisé à n'en tuer qu'un. Alors, il a dit, « Il y en a... » avait 21 et j'en ai tué 2. Il en reste 19. Et il a dit, oui, Jeff, je sais ce que vous en avez tué 2. Il a dit, c'est vrai. Eh bien, ils ont pris la motoneige, ils sont allés là-bas et ils ont trouvé 19 fois petit. Il a dit, Billy, dites la vérité à un homme, il ne la croira pas. Alors, c'est à peu près la même chose. On a beau dire la vérité aux gens, ils vont quand même. Il y a tellement de malentendus et de mensonges sur différents sujets que les gens ne croient plus que vous dites la vérité quand vous leur dites la vérité. Voyez-vous. Mais nous sommes si reconnaissants d'avoir un Père céleste qui atteste cette vérité par une confirmation. C'est vrai. Alors, si aujourd'hui était mon dernier jour sur la Terre, même la recherche et les preuves scientifiques auront prouvé que j'ai dit la vérité au sujet de ces choses. C'est vrai. C'est la vérité. Alors, ce sera probablement affiché au tableau d'affichage. Billy, es-tu là, dans la pièce? As-tu cette photo sous la main? Si oui, eh bien, apporte-la ici et affiche-la là-bas. Ils vont probablement pouvoir la voir. Eh bien, je ne sais pas. Il y aura de l'éclairage sur le tableau. Et voici la photo juste ici. Je pense que vous ne pouvez pas voir cela. Mais tout juste ici, on peut voir cette ombre de la mort en forme de capuchon au-dessus de la tête de cette femme. Et ici, au verso, on peut voir en commentaire le lieu où cette dame a pris la photo et vérifier aussi si ça apparaît vraiment. Et voilà, c'est là-dessus, c'est l'ombre de la mort sur la forme d'un capuchon. Voyez-vous cette femme, celle qui est juste là? Je pense que vous avez vu cela, frère Neville, n'est-ce pas? Alors, Billy, tu vas probablement afficher cela au tableau d'affichage, si tu le veux bien, Billy. Viens prendre cela et affiche cela devant au tableau pour que tout le monde puisse voir cela en sortant, lui ou Doc, l'un des deux. Bon, je pensais que ce serait assez clair pour que vous puissiez voir cela. Mais c'était trop sombre pour ce genre de photo. Mais il va afficher cela dehors pour que vous puissiez voir cela. Eh bien, rappelez-vous toutes les annonces. Et donc, ce matin, je me suis dit que nous devrions peut-être parler un peu de quelque chose qui va encourager l'Église, quelque chose qui vous donnerait plus de... As-tu besoin de cette lampe? Qu'est-ce que tu dis? Oui, Doc, s'il te plaît. Ce serait bien. Je vais utiliser celle-ci. On n'avait pas allumé quelques-unes la semaine dernière, alors nous avons pensé qu'elle éclairait un peu mieux aujourd'hui. Je voulais parler de ça parce que cela a trait à un songe qu'une sœur a eu. Je me demande si Sarah Shepherd est dans l'église ce matin. Je l'ai rencontrée l'autre soir et c'était la première fois que je voyais cette femme, en fait. Je ne savais même pas qui elle était. Est-elle ici? Je pense que non, oui. Est-ce que ça vous dérangerait? Serait-il hors de propos si je parlais de ce songe, Sarah Shepherd? Ça ne vous dérangerait pas, n'est-ce pas? Très bien, c'est très bien. Et avant d'aborder cela, inclinons de nouveau la terre. Bienveillant Père Céleste, nous te donnons la louange pour toute ta bonté et ta miséricorde. Et maintenant, tranquillise-nous, Seigneur, afin que nous puissions étudier la parole du Dieu vivant, alors qu'elle vient à nous par des visions, qu'elle est confirmée par le Saint-Esprit et qu'elle est soutenue par la Bible. Aussi, prions-nous pour que tu nous donnes la compréhension, afin que nous sachions quoi faire dans ces derniers jours, alors que nous voyons les puissances du mal s'installer autour de nous maintenant. Le combat, le dernier combat, est sur le point d'être livré. Aide-nous, Seigneur, comme de vrais combattants forts. Fais que nous brandissions continuellement le bouclier de la foi avec la parole de Dieu, l'épée, et que nous avancions. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, je pense qu'il faut aller de l'avant dans le combat, comme quand on se range en ordre de bataille, prêt à passer à l'action dans un vrai combat pour combattre le bon combat de la foi. Sœur Shepherd, qui est ici, et frère Shepherd sont de nos très bons amis, et ils fréquentent ce tabernacle. Ce sont de précieux enfants de Dieu. Et Sœur Shepherd, quand j'ai ramassé mon courrier, ceux auxquels Billy peut répondre, c'est quand quelqu'un dit « Envoyez-moi le nombre, tel nombre de tissus de prière, je prie sur ces tissus » et il renvoie les réponses à ces personnes. Mais s'il s'agit de courriers qui me sont adressés personnellement, je dois y répondre moi-même, voyez-vous. Alors, j'ai ramassé le courrier qui m'était adressé personnellement et je l'ai ramené à la maison. Je me suis mis à le lire là, à l'intérieur, et il y était mentionné de la part de Sœur Shepherd. Il s'agissait d'un songe qu'elle avait eu il y a quelques mois. Elle n'arrivait pas vraiment à le comprendre jusqu'à il y a deux ou trois dimanches quand j'enseignais sur ces sept âges de l'Église et les sept fruits. Dans 2 Pierre, où il est dit dans 2 Pierre 1 de joindre à notre foi, voyez-vous. Tout d'abord, le fondement, c'est la foi. Ensuite, joignez à votre foi la vertu, à votre vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance à la patience la piété l'amour fraternel, l'affection fraternelle, et ensuite l'amour qui est la pierre de fête. Sept de ces choses, sept âges de l'Église, voyez-vous, et sept étoiles des âges de l'Église, et tout cela est tempéré par le Saint-Esprit. Eh bien, voilà ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ. Christ bâtit son Église en sept âges de l'Église. Son épouse, une personne, une femme, l'Église, Cet âge de l'Église constitue et forme l'épouse. Certains sont pris de cet âge-ci, d'autres de cet âge-là, et d'autres encore de cet âge-là. Et ils sont mis tous ensemble sous la forme d'une pyramide. Comme Enoch, qui, croyons-nous, a construit une pyramide et la pierre faîtière n'a jamais été placée à son sommet parce que cette pierre de fait avait été rejetée. Et nous prenons cela maintenant, pas comme une doctrine, mais pour comprendre. C'est juste pour l'Église ici que c'est Dieu se rend parfait en trois. Il se rend parfait en Père, Fils, Saint-Esprit, trois fonctions d'un seul Dieu. Il se rend parfait par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, qui le rendent parfait. Ce sont les œuvres de la grâce. Il se rend parfait en trois venues, la première fois pour acheter son épouse, la deuxième fois pour recevoir son épouse, la troisième fois dans le minimum avec son épouse. Et tout est rendu parfait en trois. Sept, c'est le nombre de l'adoration de Dieu. Dieu est adoré en sept. Il est achevé là, tout est rendu parfait et achevé. La chose étrange, et ça, je ne le dis pas pour l'injecter là-dedans, mais seulement pour vous le montrer, c'était que le dernier cerf que j'ai eu avec cinq pointes d'un côté et trois de l'autre, voyez-vous, la grâce et la perfection. Maintenant, remarquez ceci. Christ, Dieu, a écrit trois Bibles. La première Bible était dans le ciel, c'est le Zodiac. Maintenant, si vous ne connaissez pas le livre de Job, oubliez ça, car en effet, c'est Job qui a expliqué cela, quand il a levé les yeux et a nommé ces choses qui étaient dans le ciel. Et remarquez, dans le Zodiac, cela commence par quoi? Le premier signe du Zodiac, c'est la Vierge. Le dernier signe du Zodiac, c'est le lion. La première venue de Christ, c'était par la Vierge. Pour la seconde venue, ce sera en tant que lion, le lion de la tribu de Juda. Puis Enoch avait achevé, à son époque ou à cette époque-là, la pyramide. Et ça, bien évidemment, nous n'avons pas le temps d'en donner le contexte pour montrer comment cette pyramide a été érigée en passant par les chambres et tout. Cela fait clairement écho à ce que, temps de la fin, ils sont maintenant au niveau de la chambre du roi selon leurs mesures. Mais la pierre de fait n'a jamais été posée au sommet de la pyramide et les pierres ont été parfaitement assemblées du point de vue de l'architecture ou plutôt de la maçonnerie, de sorte que même la lame fine d'un rasoir, ils ne savent pas comment on a pu construire cela. Ils ne comprennent pas. Une lame de rasoir ne pourrait pas passer entre les pierres là où il devait y avoir du mortier. Il n'y a pas de mortier là-dedans. C'est tout simplement assemblé avec perfection. Alors, c'est ce qui se passe quand Christ et l'Église deviennent un. Il n'y a pas de mortier entre eux. Il n'y a rien entre eux. C'est tout simplement Dieu et la personne. Dieu, Christ et la personne. Mais alors, cette pierre de fer, ils ne l'ont jamais trouvée. Vous connaissez la pierre de scone qu'on utilise en Angleterre lors de l'ordination des rois ou pour les couronner et tout. Mais la pierre de fête, observez le billet du dollar américain. Vous verrez si sur le billet du dollar américain, sur l'une des faces, du côté gauche, il y a le sceau de l'Amérique, un aigle qui tient des lances dans sa patte. Sur le second côté, ça s'appelle le sceau des États-Unis. Mais de l'autre côté, il y a la pyramide, et au-dessus d'elle, un grand œil, et ici en dessous, c'est marqué le grand sceau. Pourquoi ce serait le grand sceau dans cette nation carrément au-dessus du sceau de notre nation, voyez-vous? Peu importe ce que vous ferez, Dieu fera qu'on en parle, quand même, voyez-vous? Il fait que le pécheur en parle, il fait que la nation en parle, tout doit parler de lui, peu importe si vous voulez y croire ou non, c'est en plein là. Maintenant, remarquez, il y a un œil là-dessus, l'œil de Dieu. En effet, la pierre de fête ne l'a pas coiffé. Le sceau principal, parce qu'il avait été rejeté, lui qui était le Fils de Dieu. La pierre angulaire de l'édifice, le sceau principal de la pyramide et de tout cela. Bon, je n'aime pas. Parfois, on enregistre ces prédications et elles se retrouvent parmi les frères dans des églises, dans d'autres églises. Et quand cela se produit, les frères ont parfois la fausse impression que je parle contre des frères. Mais ce n'est pas ça. Si seulement vous pouviez écouter et comprendre, voyez-vous, je ne parle pas contre aucun frère. En effet, il n'est pas convenable pour des frères de parler les uns contre les autres. Nous devons parler les uns en faveur des autres et non les uns contre les autres. Mais quand je parle parfois de certaines organisations, comme les presbytériens, les méthodistes et tout, les gens disent, voyez, il est contre cela. Je ne suis pas contre les frères qui y sont ou contre les sœurs qui y sont. C'est le système qui sépare les frères que je dénonce. Les enfants de Dieu forment une seule famille et non des groupes distincts. Et certains d'entre eux disent, je ne veux rien avoir à faire avec cela parce que c'est presbytérien et moi je suis méthodiste, voyez? Eh bien, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voyez? Il s'agit du système de cette organisation qui brise la communion entre les frères, voyez-vous? Maintenant, comme je l'ai dit, si vous descendiez la rivière dans un vieux patouillard et que vous essayiez de braver les chutes et que je savais que cela ne fonctionnerait pas, eh bien, alors je crierais non pas contre vous pour vous faire des reproches, je serais en train d'essayer de vous sortir de ce bateau, voyez-vous? Parce que ce bateau-là va se briser et vous serez abandonné à vous-même dans l'eau. Alors, ce n'est pas contre le frère qui est dans le bateau que je crie, mais je crie au frère pour lui montrer ce qui est sur le point d'arriver. Eh bien, tous ces systèmes que les hommes ont échafaudés dans leur grande réalisation devront s'écrouler. C'est tout. Ils doivent parvenir. Nous devons parvenir à l'unité, à la communion entre les frères. Cela a toujours été mon but dans la vie, d'essayer d'unir et non de briser une organisation, mais de les amener à abandonner leurs opinions et à fraterniser avec chaque chrétien né de nouveau, voyez-vous? C'est ça qu'il faut. C'est ça ma position. Eh bien, maintenant, si seulement les frères pouvaient remarquer cela, bon nombre de mon frère, même au sein des églises du plein évangile, ne croient pas que les baptistes, les méthodistes, les luthériens et tout ont une chance. Mais eh bien, ils ont peut-être raison, mais je ne partage pas ce point de vue. Je crois que cet âge-ci, l'âge de Luther, cet âge-ci a été appelé, je crois, l'âge de Sardes, et ensuite l'âge de Philadelphie pour les méthodistes, et puis les pentecôtistes à l'âge de Laodicée. Je crois que ce sont des âges, et Dieu, dans chacun de ces âges, a pris un peuple élu. Et en cela, comme Hébreux 11 le dit, eux, sans nous, ne parviennent pas à la perfection. Voyez-vous? Mais maintenant, l'Église s'est formée à partir d'ici, et à chaque fois, c'est une minorité qui en sort, jusqu'à ce qu'elle soit rendue à l'âge pentecôtiste. Eh bien, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est pour que vous puissiez avoir une idée de ce que la sœur a vu dans son songe, et son songe se rapporte certainement à ce que j'enseigne. Remarquez. Alors ici, bon, toutes ces choses que vous dit 1 Pierre, versets 6 et 7, par votre foi, c'est la première chose. Eh bien, je dis que les gens prétendent avoir ces vertus sans même être nés de nouveau. Et je crois avoir fait une remarque très dure quand j'ai dit que c'est comme un mêle qui essaie de s'attifier de plumes de pain et de se faire passer pour un pain. Il ne peut pas en devenir un. Il doit avoir un plumage naturel qui pousse de lui. C'est de son intérieur que doit sortir ce plumage. Et de tout temps, j'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs au sujet des cheveux coupés, du maquillage sur le visage et tout. J'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs. Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre elles. Je ne dis pas que cette femme n'est pas une bonne femme, qu'elle est une espèce de vagabonde ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça mon attitude. Mais voici ce qu'il en est. Quand elle est si artificielle à l'extérieur, ça montre qu'il y a trop de choses artificielles à l'intérieur, voyez-vous, là où ça devrait être rempli de Christ. En effet, l'extérieur exprime toujours ce qui est à l'intérieur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, voyez-vous. Et pourtant, Christ devrait être là, à l'intérieur. Elle devrait se soucier de Dieu, se soucier d'autre chose au lieu de tant d'éclats artificiels. Vous savez, des paupières vertes qui donnent cet air inhumain et tout ce genre de choses. Je ne cautionne simplement pas cela et je ne crois pas non plus que la Bible cautionne cela. Alors j'aime que nous restions comme nous sommes. Remarquez, eh bien, si elle n'a pas d'ongles et qu'elle veut en avoir, si elle n'a pas de dents et qu'il lui en faut, si vous n'avez pas de bras et qu'il vous en faut, si vous n'avez pas de cheveux et qu'il vous en faut, si vous n'avez pas de toutes ces choses, c'est différent. Mais si vous arrachez vos bonnes dents naturelles parce qu'elles ne sont pas aussi brillantes qu'elles devraient l'être, alors vous avez mal agi. Si vous avez des cheveux roux et vous en voulez des noirs, si vous avez les teintés en noir juste pour cela, vous avez mal agi. Oui, c'est que moi, je pense. Mais le plus important, il n'y a pas d'écriture pour ça. Mais seulement pour ce qui est de couper les cheveux, qu'il y a des écritures, oui. J'en ai plein. Alors, nous voulons être sûrs que c'est juste maintenant. Maintenant, notre sœur, dans son songe, elle a rêvé qu'elle... Eh bien, tout d'abord, elle a été perturbée. À quoi ça sert d'aller de l'avant et d'essayer de se battre dans la vie si Dieu nous exige d'avoir le Saint-Esprit et que nous ne l'avons pas? Eh bien, je ne pense pas. Ils enregistrent peut-être ceci, mais s'ils ne le font pas, s'ils le font, c'est uniquement pour l'Église, voyez-vous? Maintenant, frère, s'il arrivait que ceci vous parvienne et que vous entendiez ma voix à ce sujet, frère, souvenez-vous que cet enseignement, c'est uniquement pour mon Église. Vous devez toujours, avant de les faire entendre dans votre assemblée, examiner ces bandes. Et si vous ne voulez pas que votre assemblée les entende, alors ne les laissez pas les vendre. Les entendre. Mais je m'adresse uniquement à ce petit groupe ici, ce groupe que Frère Neville et moi, par le Saint-Esprit, essayons de paître et d'enseigner. Eh bien, il se peut que vous ne soyez pas du tout d'accord sur certains points. Si c'est le cas, comme je l'ai toujours dit, pour ce qui est de manger du poulet frit, quand vous tombez sur un os, vous ne jetez pas le poulet, vous jetez l'os. Alors faites toujours cela. Si en mangeant une tarte aux cerises, vos dents s'arrêtent sur un noyau, vous ne jeteriez pas la tarte, vous jeteriez simplement le noyau. Alors faites de même quand vous écoutez ceci. Eh bien, je crois que la raison pour laquelle il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet du Saint-Esprit, c'est que l'enseignement n'a pas été donné correctement. Je crois qu'on enseigne le baptême et on fait juste dire le baptême. Mais alors, c'est comme quand on dit automobile. Eh bien, il y a de nombreux mécaniciens dans cette église et je ne connais rien à ce sujet. Alors, si je fais une erreur, frère, souvenez-vous, je ne suis pas un mécanicien. Il doit y avoir des bobines, des bougies, des vis platinées, des valves et toutes sortes de choses dont est construit l'automobile. Et quand on parle du baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela, hein? Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui vont avec cela. Et voici ce que je pense que Dieu est en train de démontrer. Le Saint-Esprit est ici, voyez-vous. Eh bien, Pierre a dit, premièrement, c'est la foi. Eh bien, soyez vraiment attentifs maintenant. Nous allons enseigner ceci pendant quelques minutes. La foi, eh bien, c'est ce qu'il vous faut premièrement. Et joignez à votre foi la vertu, à votre vertu la connaissance, à votre connaissance la tempérance, à votre tempérance la patience, à votre patience la piété, à votre piété l'amour fraternel, l'affection fraternelle et ensuite l'amour. Et tout le monde sait que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour, voyez-vous? Maintenant, c'est alors que nous partons de là et nous ramenons cela aux sept âges de l'Église. Dieu est en train de former, au cours des sept âges de l'Église, une épouse pour Christ. À travers l'âge de Philadelphie, de Thyatire, de Pergame, de Smyrne et d'Éphèse, un âge de l'Église dont Jésus a dit, quand l'époux est venu à la première veille, ou plutôt à la septième veille, toutes ces vierges se sont réveillées. Elles l'ont fait. Elles se sont réveillées, les vierges d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Aviez-vous remarqué cela? C'était dans le septième âge qu'il était venu et avait réveillé ces vierges endormies. Cela les ramène jusqu'ici, complètement en arrière, voyez-vous? Car dans ceci, à travers les années, les âges, il a formé une épouse, a donné naissance à une épouse, a engendré une épouse sur terre pour Christ. Et de la même manière qu'il a engendré cette épouse, il a engendré des individus. Maintenant, je suis en train de mettre cela en contexte pour que vous puissiez comprendre quand on parlera du songe de la sœur. Maintenant, ces choses-ci doivent absolument se trouver dans le chrétien avant que le Saint-Esprit ne le scelle, avant que ceci ne descende là-dessus pour compléter l'édifice. Maintenant, voici le songe de notre sœur. Elle était inquiète, elle se demandait si elle avait le Saint-Esprit ou pas au moment où elle s'est allongée sur le canapé où son mari était en train de lire un journal. Elle a de petits-enfants comme moi, et ils font constamment des bruits et tout. Alors, c'est comme ça qu'elle s'est endormie pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes. Elle a eu un songe, et elle avait du mal à le comprendre ou de le recoller les morceaux ensemble depuis bientôt un an jusqu'à ce que je prêche ce message. Et pendant que je prêchais cela, tout le songe lui est revenu. Elle a rêvé qu'elle était en prière. Elle faisait les 100 pas d'abord avant qu'elle ne rêve. Elle se tordait les mains et se demandait, « Seigneur, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Peux-tu me le prouver? » D'aucuns disent « parce que j'ai poussé des cris » ou d'autres disent « parce que j'ai parlé en langue » et nous croyons toutes ces choses. Mais est-ce que je lis vraiment? Je crois à toutes ces choses, à ces vertus, parler en langue, pousser des cris et tout genre de démonstrations. Je crois à tout cela, mais si vous faites cela sans avoir ceci, il y a quelque chose qui cloche, voyez-vous? Maintenant, vous avez une carapace, remarquez. Elle est inquiète à ce sujet et elle s'est alors allongée sur le canapé où son mari était en train de lire et elle s'est endormie. Et elle a rêvé qu'elle se trouvait au sommet d'une montagne. Et sur cette montagne, le meilleur, je n'ai pas la copie devant moi, mais je pense que c'est comme ceci. Dans son songe, elle a vu un coffre en pierre, comme une charpente posée au sommet de la montagne. Et son mari se tenait juste derrière elle. Et elle a vu un homme corpulent qui se tenait là, vêtu d'un vêtement de travail, les manches retroussées, vidant l'eau la plus pure qu'elle a jamais vue, en la déversant dans ce coffre en pierre qui était posé au sommet de la montagne. Et ce coffre en pierre ne retenait pas cette eau. Ça se répandait hors de là et ça ébouillantait toute la saleté, toute la broussaille et tout ce qui s'y trouvait. Ça les ébouillantait et ça coulait vers le bas de la montagne et cela a coulé sur ses pieds. Elle se tenait en plein là-dedans, mais cela n'a pas collé sur elle. Et alors, elle a demandé pourquoi le coffre ne retenait pas cela. Et l'homme lui a dit, « Ce n'est pas de l'eau, c'est le Saint-Esprit. » Et a-t-il dit, rien ne peut retenir cela. Et elle a dit qu'il est retourné et a pris un autre grand seau qui était rempli de miel. Il a versé du miel et il a dit, eh bien, ça va retenir ceci. Et elle pensait que ce coffre, qui était un coffre en pierre, allait éclater et répandre ce miel, mais ça n'a pas éclaté. Ça s'est finalement collé et ça l'a retenu. Elle s'est retournée et s'est mise à descendre de la montagne. En descendant de la montagne, elle s'est arrêtée au bas de la montagne et a regardé en arrière. Elle a vu 5 ruisseaux de cette eau pure et cristalline qui n'étaient pas contaminés par tout ce qu'elle avait traversé. Elle demeurait limpide et pure et elle coulait rapidement. Ensuite, le flot a ralenti, puis cette eau a presque tari. Et elle se demandait si cela pourrait atteindre le bas de la montagne, ces 5 ruisseaux. Elle s'est réveillée. Je pense que c'est à peu près ça, n'est-ce pas, Sœur Shepherd? Eh bien, à peine avais-je pris cette lettre et l'avais-je ouverte avant même que je la lise. J'ai vu ce songe. C'est comme ça que les songes sont interprétés. Eh bien, beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà venus me voir avec des songes et m'avez dit ces choses à propos des songes. Je vous ai dit un instant, vous n'avez pas tout raconté, voyez-vous. Je suis revenu en arrière pour le compléter. Alors, si vous ne pouvez pas raconter le songe, comment pouvez-vous savoir que son interprétation est juste ou pas? Voyez-vous, vous devez voir le songe. Une vision doit le montrer. Et quand vous voyez le songe et que la personne a eu, que vous êtes capable de lui raconter avant qu'elle ne vous le raconte, alors vous en connaissez l'interprétation. Eh bien, je crois que c'est dans l'Écriture aussi. Daniel, une fois, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, je crois que ça vient juste de me traverser la pensée, voyez-vous. Mais vous verrez toujours le songe. Eh bien, si l'interprétation est juste, quelqu'un commence à vous raconter un songe, vous arrêtez simplement en disant, un instant, dans votre rêve, il y a eu ceci et cela, il y a eu ceci et cela, puis ceci et cela. Puis vous dites, c'est tout à fait exact, voyez-vous. L'autre jour, un monsieur essayait de me raconter un songe qu'il avait eu. Il a dit, j'ai dit, eh bien, frère, pourquoi avez-vous omis cette autre partie? Il a dit, quelle autre partie? J'ai dit, vous avez rêvé que vous avez lancé une pierre en l'air, j'ai tiré dessus et quelques fragments me sont tombés dans les yeux. Il a dit, c'est tout à fait vrai, frère Branham. Et on a retiré le fragment hier. Ah oui, alors vous y êtes, voyez-vous pourquoi? Vous ne laissez pas dire la vérité à ce sujet, mais vous voyez, cela révèle toujours ce que ça vous raconte, votre songe, ce dont vous avez rêvé. Alors vous savez que c'est juste. Mais si voici l'interprétation de son songe. Elle était inquiète au sujet du Saint-Esprit, et bien, étant donné qu'elle avait vu que le coffre au sommet de la montagne était en pierre, le coffre en pierre, c'est le roc, la confession. Eh bien, comme Jésus l'a dit dans les Écritures, il a dit, Pierre a dit, qui, Jésus a dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Élie et Moïse, et ainsi de suite. Il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, alors, certains disent, l'Église catholique romaine dit que ce qu'était le roc, celui dont Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ils disent que c'était sur Pierre, et que Pierre était ce roc. Effectivement, Pierre signifie petite pierre. Sur cette petite pierre, Je bâtirai mon Église. Et sur Pierre, ils, la succession apostolique, ils ont bâti l'Église. Puis l'Église protestante dit, c'est faux. Ils disent que c'était sur lui-même qu'il avait bâti l'Église. Eh bien, pas pour être en désaccord, mais moi, selon ma manière de voir, les deux ont tort. En effet, il ne l'a jamais bâti sur Pierre, ni sur lui-même, mais sur la révélation qu'a eue Pierre de qui il était, voyez-vous? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas un séminaire, voyez, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Tu es Pierre, sur ce roc de la confession, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Et c'est ce qui a toujours été. Chaque âge a eu ce roc de confession jusqu'à ce roc de confession de la Odyssée. Et maintenant, il ne peut pas y avoir de Sainte Église. Il n'existe pas de Sainte Église ou de Sainte Organisation. Le Saint-Esprit peut-il être prêché, mais là-dedans, vous trouvez des bons et des méchants, des renégats, des indifférents et tout. Donc, une organisation ne peut pas le retenir. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire, c'est nous qui l'avons. Personne d'autre ne l'a. Non, monsieur. Le Saint-Esprit a été déversé sur des individus. Il s'agit de l'individu. Ainsi donc, le roc, cette église pentecôtiste des derniers jours qui a reçu le Saint-Esprit, ils l'ont reçu au commencement, tout au long des âges, les gens ont reçu le Saint-Esprit, mais pas dans la mesure qu'on l'a maintenant, parce que c'est la restauration du commencement. Comme il en est des chandeliers, l'alpha et l'oméga, de la manière qu'on allumait la première chandelle, elle a brillé de plus en plus fort et elle s'est assombrie de plus en plus, puis elle revient de nouveau. Voyez-vous, le premier et le dernier, ainsi de suite. Eh bien, mais dans cet âge de l'Église, le message est en train d'être déversé dans l'Église, mais le corps de l'Église lui-même, dans son grand ensemble, comme ce tabernacle, disons, c'est cette Église qu'elle fréquente. Ce tabernacle n'est pas un tabernacle du Saint-Esprit. Une telle chose n'existe pas. Ce sont les individus qui fréquentent cette Église qui sont les tabernacles du Saint-Esprit. Ce sont eux qui sont des tabernacles qui contiennent le Saint-Esprit, mais pas l'Église en tant que corps, en tant que groupe. Par conséquent, c'est pourquoi cela vient à manquer. Mais alors, cet homme qui versait de l'eau, le messager de l'Église qui déversait le message dans l'Église, mais que faisait cette eau? Elle ébouillantait toutes les saletés qui s'y trouvaient. C'est ce que fait le Saint-Esprit, ça ébouillante cela, très bien. Alors, le miel représentait l'amour fraternel, l'affection fraternelle, c'est-à-dire cet âge. Je venais juste d'en parler, voyez-vous, de l'affection fraternelle, l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Eh bien, vous pourriez dire, dites donc, je n'aime pas du tout Frère Neville, ou je n'aime pas du tout Frère John, je n'aime pas Frère Untel, et des choses de ce genre. Mais attendez que quelque chose lui arrive, frère. Votre cœur sera brisé. Cela va presque vous tuer. Voyez-vous? Nous pouvons avoir l'affection fraternelle et des sentiments les uns les autres. Voyez-vous? Mais pour demeurer dans un groupe de personnes, pourquoi vous souciez-vous de ce frère? Parce que vous avez rompu le pain avec lui ici à l'hôtel, comme vous le ferez ce soir. Vous communiez avec lui. Vous lui avez serré la main. Vous adorez avec lui. Il est votre frère. Il se peut qu'il fasse quelque chose dans la chair que vous n'approuvez pas et vous vous mettez un peu à l'écart, ce que vous ne devriez pas faire, mais vous évitez un peu. Mais au fond de votre cœur, si quelque chose arrivait à ce frère ou à cette sœur, cela vous tuerait presque. Je suis un vieil homme. J'ai été jeune. Et maintenant, je suis vieux. Et j'ai vu cela se faire toutes ces années. J'ai entendu les gens dire, je ne veux plus jamais avoir affaire avec lui. Et quelque chose arrive à la personne, cela les tue presque. Ils se mettent à penser, oh Dieu, j'ai laissé partir mon précieux frère sans me réconcilier avec lui. Voyez-vous? C'est l'amour fraternel. Ça fait comme si ça ne peut pas tenir, mais ça tient. Le miel, ça tient. Eh bien, comme elle venait de là et qu'elle descendait de la colline pour aller au bas de la colline, alors cette glorieuse eau qui jaillissait des collines se répandait par cinq ruisseaux. Or, cinq, c'est le nombre de la grâce. Jésus, G-E-S-U-S-F-A-I-T-H, foi, grâce, G-R-A-C-E, voyez-vous, cinq est le nombre de la grâce. Cinq ruisseaux se déversaient de la gouttière là-haut jusqu'ici en bas. Chacun de ces âges avait ce roc de confession. Les saints dorment, ils attendent, 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 voyez-vous, jusqu'à cet âge. Mais bientôt, le Saint-Esprit qui est déversé à partir de Christ viendra sceller l'Église. Alors, l'Église sera enlevée. Ce sera une unité complète de Dieu, une épouse pour Christ qui sera la tête de toutes choses. Me suivez-vous maintenant? Alors, elle se posait des questions. Eh bien, dans son songe, elle se posait cette question. Ce petit ruisseau, est-ce que ce petit ruisseau pourrait couler jusqu'en bas? Voyez-vous, il s'asséchait. Eh bien, étant donné qu'elle-même, eh bien, voici donc ce que je veux que vous saisissiez. Elle se posait des questions au sujet d'elle-même. Elle se demandait si elle avait le Saint-Esprit. Eh bien, il y a quelques jours, j'ai évité de dire ceci en pensant que l'Église serait assez spirituelle pour le saisir. Et peut-être que je ferais mieux d'arrêter l'enregistrement maintenant même, parce que je ne voudrais pas que cela se retrouve parmi les frères. Toutefois, vous pourriez parler en langue, vous pourriez pousser des cris, vous pourriez danser, vous pourriez chasser des démons, faire tout ce que vous voudrez, sans pour autant avoir le Saint-Esprit. Les disciples n'étaient-ils pas revenus en se réjouissant, en poussant des cris parce que les démons leur étaient soumis? Et Jésus, parmi eux, n'y avait-il pas Judas? Jésus n'a-t-il pas dit, en ce jour-là, quand il reviendra, que plusieurs viendront à moi en disant, « Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons et fait des œuvres puissantes par ton nom? » Je dirai, « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai pas connus. » Ces choses ne sont pas les signes du Saint-Esprit. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, vous dites, « Frère Branham, devrions-nous parler en langue? » Absolument. Ce sont des dons de Dieu. Mais ces dons de Dieu, sans ces vertus en eux, sont une pierre d'achoppement pour l'incroyant. Cela n'est pas approuvé de Dieu. Ceci devrait être la premièrement. Et quand vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel, alors le Saint-Esprit descend et vous scelle en tant qu'unité. De la même manière qu'il scelle les âges de l'Église en tant qu'unité. La manière dont il forme son épouse, c'est de la même manière qu'il forme son individu. Ils sont faits de la même matière, comme Ève était faite d'Adam, d'une côte prise de son côté. Voici ce que vous devez avoir premièrement. Vous ne pouvez pas imiter ces choses. Vous ne pouvez pas imiter cela. Elles doivent être envoyées de Dieu, nées de Dieu. L'imitation ne fera que produire de la confusion. C'est comme ce que je disais. Pourriez-vous imaginer une buse perchée là avec des plumes de colombe plantées dans ses ailes, disant « Voici, je suis une colombe ». Elle n'est pas une colombe, elle est une buse, un vautour. Pouvez-vous imaginer un merle qui a des plumes de pan dans ses ailes et qui dit « Voyez, ça, c'est quelque chose qu'il a planté en lui ». Mais ça doit venir de l'intérieur vers l'extérieur et produire le christianisme. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Notre sœur avait les pieds mouillés quand elle est arrivée en bas. Nous connaissons tous Sœur Shepherd comme quelqu'un de charitable. Sa maison est ouverte, le frère et elle, peu importe si c'est un clochard, un mendiant ou quoi que ce soit, ils lui donneront à manger et feront tout ce qu'ils peuvent pour lui venir en aide. Oh, Dieu a approuvé cela, le fondement qu'elle a présenté. Et voici maintenant, saisissez cette leçon. Voici ce qui cloche avec le... On ne devrait pas enregistrer ceci. On devrait enregistrer ceci. Voici ce qui cloche au Branham Tabernacle. Vous voyez, il y a deux sortes de foi. Il y a deux sortes de vertus. Comme je le disais l'autre jour, deux sortes de connaissances, deux sortes de tempérance. On pense qu'il s'agit de la prohibition. Ce n'est pas le genre de tempérance dont Dieu parle. Il s'agit de votre tempérance impie et incontrôlable et des choses de ce genre qui font que vous êtes prompt à réagir, à vous quereller. Quant à la patience et tout, il en existe des parodies, des faux-semblants. Il y a une foi naturelle, une vertu naturelle, il y a une tempérance naturelle. Toutes ces choses sont naturelles. Et la plus grande partie de notre foi, c'est la foi mentale. L'écoute de la parole nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si ceci qui descend d'en haut, oh frère, si jamais cela frappe ceci, il y aura une foi spirituelle remplie de piété. Alors, que fait cette foi? Cette foi ne reconnaît que la parole. Peu importe ce que dit toute autre chose, cela ne reconnaît que la parole. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole demeure Dieu, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et quand la parole elle-même se déverse dans notre foi mentale devient une révélation spirituelle. Sur ce fondement, je bâtirai mon Église. Voyez-vous? Pas sur une conception mentale d'adhésion à l'Église, une conception mentale de cela, mais sur la révélation, après que les ruisseaux de grâce se sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Voyez-vous? Cela montre qu'elle se liguerait contre elle, mais elles ne prévaudront jamais. Oh, que c'est glorieux! Alors, voyez, la foi, c'est cinq ruisseaux. J'avais un morceau de craie ici, mais je pense qu'il ne me l'a pas apporté. Et les cinq ruisseaux que vous avez vus couler jusqu'ici en bas font fusionner ceci. C'est le Saint-Esprit qui a formé l'Église d'Éphèse. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église de Smyrne. C'est le Saint-Esprit qui a donné l'Église de Pergame et l'Église de Thyatire dans les âges des ténèbres. C'est le Saint-Esprit qui a bâti cette épouse, cet élu, qui a été sorti de tous les systèmes d'organisation tout au long des âges, comme cela. Il y a une élue, une épouse prédestinée de Jésus-Christ que le Saint-Esprit a appelée à sortir, l'élu. Et c'est le Saint-Esprit dans cet âge-ci, cet âge-là, celui-là, 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 jusqu'au sommet, le Saint-Esprit. Et maintenant, de même que dans les individus, ces vertus et autres qui sont la connaissance et la tempérance sont jointes à notre foi, alors quand la pierre de fête vient, le Saint-Esprit cimente cela ensemble. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que c'est si rare aujourd'hui. Laissez-moi ici. J'ai noté des références ici. Voyons, j'ai fait un dessin ici pour illustrer son songe, voyez-vous? Vous ne pouvez pas voir cela de là. Maintenant, venant par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui vient? Eh bien, il vous donnera la foi surnaturelle, la foi spirituelle, ce qui est ici à la base. Alors, cette foi spirituelle reconnaît uniquement la parole. Peu importe ce que quiconque dit, ça ne sert à rien. C'est uniquement la parole qu'elle connaît. Si quelqu'un dit « les jours des miracles sont passés », cette foi-là connaît uniquement la parole. Quelqu'un dit « le baptême du Saint-Esprit n'existe pas », cette foi-là connaît uniquement la parole. C'est la véritable foi spirituelle, voyez? C'est vrai, voyez-vous? C'est uniquement la parole qu'elle connaît. Alors ça, c'était la première étape. La première étape, ce qui vient à vous, à votre foi mentale qui est juste ici, c'est le Saint-Esprit qui descend dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Ensuite, la foi spirituelle reconnaît uniquement la parole. Ensuite, c'est la deuxième, la troisième étape. Alors, vous aurez le spirituel, vous aurez le Saint-Esprit, et il scellera toutes ces choses en vous par le fait qu'il couvrira ceci. De votre foi jusqu'au Saint-Esprit, vous êtes scellés en Christ, alors vous devenez un. Amen. Dégagez ça de mon chemin, c'est lourd pour vos bras. Vous devenez un. Vous voyez, Christ et vous vivez ensemble. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Voyez-vous? Alors là, c'est une unité scellée du Seigneur Dieu. Ensuite, ils sont confirmés et placés. Quand ce moment arrive, ils deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés. Vous souvenez-vous dans le livre de Matthieu, chapitre 17, du verset 1 au verset 5, Jésus sur la montagne de la Transfiguration? Vous avez entendu, écoutez-le, le sermon que j'avais prêché il y a environ un an et qui est devenu très populaire. Écoutez-le, le placement d'un fils dans Éphésiens 1, 5. Aussi, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Voyez, dans une famille, quand un fils leur était né, alors c'était un fils. Mais ce fils avait des précepteurs qui étaient chargés de l'élever. Et s'il arrivait que ce fils ne soit pas un fils digne, on ne ferait jamais de lui l'héritier. Mais s'il était un fils digne, un fils qui obéirait à son père, alors ce fils était adopté ou placé dans sa position. Il devenait l'héritier des biens de son père. Et c'est ce que Dieu faisait sur la montagne de la Transfiguration. Quand il a pris son propre fils, après que celui-ci avait prouvé qu'il était un fils digne, voyez, et qu'il avait résisté à toutes les tentations, il l'a amené sur la montagne de la Transfiguration et l'a couvert de son ombre. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on prenait un fils, on lui mettait de très jolis vêtements et on l'installait sur la place publique. Là, on procédait à la cérémonie de placement, ce que nous appelons l'adoption. Là, dans Galates, je pense que Paul appelle cela l'adoption. Eh bien, mais c'est ce placement du fils, les ministres le comprendront, de même que les lecteurs spirituels de la Bible, le placement de ses fils, de ce fils. Autrement dit, le fils était un fils à la naissance. C'est là que nos frères pentecôtistes ont commis leur erreur. Naître dans la famille par le Saint-Esprit, c'est juste. Mais alors, il faut que nous soyons des enfants dignes, enseignés par le précepteur approprié, voyez-vous? Maintenant, dans les temps anciens, si un homme pensait à son fils et voulait faire de lui le fils qu'il faut, il recrutait le meilleur précepteur qu'il pouvait trouver, le meilleur enseignant, parce qu'il voulait que son fils grandisse et devienne comme son père, voyez-vous? Alors, il recrutait le précepteur qu'il fallait. Eh bien, si un homme terrestre pouvait penser au meilleur précepteur, qu'en est-il de Dieu, notre Père? Alors, il n'a jamais recruté des évêques, des cardinaux, des prêtres. Il nous a donné le Saint-Esprit comme précepteur. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Et il est dans l'Église et il présente son rapport au Père. Alors, qu'en est-il si le précepteur venait dire au Père, « Eh bien, Père, or, il n'aurait jamais recruté un genre de précepteur qui recherche des plumes dans son chapeau, une plume pour, comme nous appelons cela, qui dirait, « Oh, si je dis quelque chose au Père au sujet, ce petit garçon est un renégat de toute façon, mais si je le dis au Père, le Père pourrait me donner une augmentation. » Ça, ce n'est pas le genre de précepteur qu'il faut. Le précepteur qu'il faut est honnête, il dit la vérité. Comme le Saint-Esprit dit la vérité quand il se présente devant Dieu à notre sujet, oui, alors il vient. Que penses-tu? Il rougirait aujourd'hui et dirait, « Toutes tes filles se coupent les cheveux, pourtant tu leur as dit, défendu. Tes fils sont trop portés vers des organisations dans leur esprit. Il leur est pratiquement impossible de se supporter les uns les autres, c'est vrai. Et ils sont en train d'adopter ceci à la place de ceci et ceci à la place de cela. » Comme il va rougir. Mais combien ce précepteur a aimé venir dire, « Oh là là, ce fils est un véritable fils, il est vraiment comme son père. » Oh, combien il aurait aimé dire cela, voyez. Alors le père, rempli de fierté, dirait, « Ça, c'est mon fils. » C'est également ce que Dieu a fait sur la montagne de la Transfiguration. Remarquez, là, sont apparus Moïse et Élie. Et Pierre était tout excité, le naturel s'était produit. Pierre, tout excité, a dit, « Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Quand il me parlait encore, Dieu l'a fait taire. Il a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le, voyez-vous, Dieu lui-même s'est interposé là et il a dit, « Celui-ci est mon fils. » Moïse représentait la loi, les prophètes représentaient sa justice. Nous ne pouvions pas vivre de sa loi. Nous ne pouvions pas vivre de sa justice. Je ne réclame pas sa justice. Je veux la miséricorde, pas la justice. Je ne peux pas garder sa loi. Je ne peux pas accomplir sa justice. Mais j'ai besoin de sa miséricorde. Et Dieu a dit que la loi et la justice ont été accomplies en lui. Il est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le voilà. C'est lui. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand ce fils était adopté, ou plutôt placé dans la famille, son nom était tout aussi valable sur le chèque que celui de son papa. Oui, monsieur. Il n'y avait pas de... Il y avait un anneau, en ce temps-là, une chevalière, un cachet. On crachait dessus, on appliquait, c'était le cachet, c'était tout aussi. Il portait l'anneau de son papa, son cachet. Et c'était tout aussi valable que celui de son papa. Maintenant, comme Jésus avait été obéissant, Jésus vis-à-vis de Dieu, Dieu l'a placé dans sa position. Le voici. Maintenant, quand un membre est né par le Saint-Esprit dans la famille de Dieu et qu'il a démontré qu'il a en lui ses vertus, de sorte que Dieu peut voir en lui la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l'amour fraternel et la piété, alors Dieu le scelle ou le place. Et alors, c'est là qu'on voit des fils et des filles de Dieu. Alors, Éphésiens 4, 30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Bon, certains d'entre vous, les baptistes, vous qui voulez mettre en avant la sécurité éternelle, eh bien, si vous arrivez à ce stade-là, vous aurez mon soutien. Vous avez la sécurité éternelle si vous arrivez à ce niveau-là. Mais s'il suffit juste de dire, si quelqu'un dit « je suis membre de l'Église baptiste, je suis presbytérien, j'ai la sécurité éternelle », c'est faux! Vos propres vies démontrent que vous ne l'avez pas, tant que vous n'avez pas ceci. Et si Dieu vous a adopté, vous a scellé par le Saint-Esprit dans son royaume, alors il n'y a plus moyen d'en sortir. Vous avez la sécurité pour l'éternité, vous croyez? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous, toutes vos vertus avaient été scellées jusqu'au jour de la rédemption. Je crois qu'il y a une épouse qui est prédestinée. Je crois que Dieu a dit qu'il aurait une église sans tache ni ride. Je crois en la prédestination, que l'épouse est prédestinée. Elle doit être là. J'espère en faire partie. J'espère, voyez-vous, que j'en ferai partie. Alors, il m'appartient de travailler à mon propre salut avec Dieu jusqu'à ce que ces choses soient approuvées de Dieu et ensuite scellées dans le royaume de Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Voilà les œuvres authentiques de Dieu. C'est scellé jusqu'au jour de la rédemption. C'était ça son songe. C'est penser que c'était merveilleux. Et si donc, quand elle le fait, quand l'Église arrive à ce niveau, ou plutôt l'individu, l'Église y sera. Permettez-moi de le dire très clairement pour que vous le compreniez. L'Église a été prédestinée à y être. Je tiens à en faire partie. Mais le seul moyen d'en faire partie, c'est d'en être une partie. Comment puis-je devenir une partie d'elle? C'est en étant en elle. Comment puis-je y entrer? Par un baptême, par un seul esprit. 1 Corinthiens 12, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, un seul corps. On y entre par le baptême. Mais vous ne pouvez pas y glisser ces petites choses et dire « j'ai parlé en langue, je l'ai ». Vous allez là dehors, vous vous mettez en colère, vous proférez des jurons et vous conduisez mal, voyez-vous. Ça, c'est mettre des plumes de pan dans un jet. Voyez-vous, vous ne le pouvez pas. Votre propre vie démontre qu'il n'en est rien. Mais quand ces choses agissent en vous par Dieu, alors vous êtes scellés. Alors ce n'est pas de la fabrication, vous êtes vous-même. C'est là que les visions, le parfait, le Saint-Esprit, les œuvres de Dieu, tout se manifeste. Pourquoi? Parce que Christ et vous devenez un. J'espère que c'est compris. Christ et vous devenez un. J'avais noté autre chose ici parce que je ne voulais pas l'oublier. Cela nous amène à la question de la vie. Alors, vous avez la vie éternelle. Eh bien, j'ai le lexique grec ici, le emphatique diaglotte. J'ai étudié un mot l'autre jour. Maintenant, dans Jean 14 ou Jean 3, 16, nous voyons qu'il y a un endroit où il est dit « avoir la vie perpétuelle ». À un autre endroit, il est dit « avoir la vie éternelle ». Mais en grec, dans la version grecque, en hébreu, il est dit « la vie sans fin ». Le mot grec s'écrit « A-I-N-I-O-A-N ». C'est presque comme aeon. Aeon, c'est une durée qui ne peut pas, c'est un nombre qui ne peut pas être compté. C'est au-delà des millions, des milliards, des billions. Mais ici, ce sont des aeonions de temps, la vie éternelle. Et le mot anglais pour ça, c'est éternel. Nous connaissons cela comme étant éternel, aeonios, ou la vie sans fin, voyez-vous. Et si vous avez la vie sans fin, comment pouvez-vous périr? Vous êtes devenu une partie de ce qui est éternel, et il n'y a qu'une chose qui soit éternelle. Satan n'est pas éternel, non. Il est devenu Satan. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer a été créé. Ce n'est pas éternel, et ses corps ne sont pas éternels. Ils ont été créés. Mais l'Esprit de Dieu est éternel. Il n'y a jamais eu de commencement, ou plutôt, il n'aura jamais de fin. Et le seul moyen pour nous d'avoir la vie éternelle du mot grec « zoé », qui signifie la vie même de Dieu, nous devenons une partie de Dieu quand nous devenons des fils et des filles de Dieu, et nous avons la vie « aionios ». Alors, la partie qui vit, nous, qui reconnaît cette parole d'ici à là, ce qui la reconnaît, c'est la vie « aionios », la vie sans fin, c'est la vie de Dieu lui-même en nous. Amen. Phew. L'autre jour, au cours d'un voyage, j'ai eu une discussion avec un témoin de Jéhovah. Eh bien, je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers la foi de qui que ce soit. Il y a de nombreux témoins de Jéhovah reconvertis qui sont assis là parmi nous. L'un des administrateurs de notre église étant témoin de Jéhovah, c'est ce qu'il était. Il a été sauvé, sa famille et lui. Son père est un lecteur, frère Wood et les autres. Maintenant, tous ses frères et sœurs, presque tous, sont convertis, ont reçu le Saint-Esprit à cause des visions de Dieu qui ont révélé ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils, voyez-vous, c'est ce qu'il a rendu cela possible. Eh bien, mais ici, dans le livre des témoins de Jéhovah, il est dit que le souffle que vous respirez, c'est l'âme. Or, cela ne peut pas être juste. Le souffle que vous respirez n'est pas l'âme. Si oui, vous avez un coup, vous avez une certaine âme, le coup suivant, vous devenez quelqu'un d'autre en respirant d'une autre âme. Le coup suivant, vous êtes quelqu'un d'autre à respirer cette âme. Regardez où ça vous mène. Eh bien, le souffle, c'est le vent. Le vent, c'est ce que vous respirez par vos narines. Or, ils prennent l'Écriture et disent, « Et Dieu souffla dans ses narines un souffle, et il devint une âme vivante. » Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. S'il était un homme, quelle sorte de souffle respirait-il avant que Dieu ne souffle en lui son souffle de vie? Voyez-vous? Quelle sorte de souffle? Il était un homme vivant qui respirait. Eh bien, alors, si donc ils ont raison, chaque animal est une âme vivante parce qu'il respire les âmes des humains, nos âmes et tout le reste. Alors, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Le sacrifice des animaux aurait été suffisant. Voyez-vous, alors, frère, cet argument ne tient pas de la route. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il a soufflé le souffle de la vie éternelle. Amen. Alors, il est devenu une âme vivante, une âme qui ne peut pas mourir. Eh bien, regardez maintenant, nous allons nous enfoncer dans le miel jusqu'au coude. Remarquez, il a soufflé le souffle de la vie éternelle dans ses narines, et il est devenu une âme éternelle. En effet, Dieu a soufflé là. Il ne s'agit pas de ce que la nature a fait, mais de ce que Dieu a fait. Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, et il est devenu une âme vivante. Alors vous me direz, Adam est mort, frère Balaam. Mais souvenez-vous, avant qu'Adam ne meure, il y a un agneau qui l'avait racheté. Alléluia! Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Il a pris un agneau pour les racheter. Il était un type. Adam était tombé. Ensuite, l'agneau avait été pourvu pour Adam parce qu'il avait déjà eu à respirer par ses narines le souffle du Dieu éternel et qu'il était devenu une âme vivante. Il était un fils de Dieu. Pas son souffle, comme ce mot africain. Je ne connais pas le mot grec pour ça en ce moment, mais le mot africain qu'ils emploient, c'est amoya, qui signifie le vent, une force invisible. Les animaux respirent l'amoya. Les pécheurs respirent l'amoya. Alors, à quoi bon lutter pour la vie éternelle si ce qui entre en nous par la respiration, c'est l'âme éternelle? À quoi bon lutter pour la vie éternelle? Ça nous retombe sur le nez, mes frères, voyez-vous? Ça ne peut pas être cela. Mais Dieu a particulièrement soufflé sur Adam le souffle de vie, et il est devenu une personne éternelle auprès de Dieu. Comme Dieu, il avait la puissance, il était un Dieu amateur, il était le Dieu de la terre, pas le Dieu du ciel, là, le Dieu de la terre. Et un de ces jours, les fils de Dieu redeviendront des dieux. Jésus l'a dit. N'est-il pas écrit dans vos lois, vous êtes des dieux? Alors, si vous pouvez appeler des dieux ceux qu'il a appelés, ceux que Dieu a visités, comment pouvez-vous me condamner, disons, quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Voyez-vous, là, nous entrons dans quelque chose de profond. Maintenant, observez ceci quand nous allons enfoncer ce clou. Maintenant, nous y sommes. Il est désormais un Fils de Dieu, mais il commet une erreur. Il sait qu'il fait ce qui est mal. Maintenant, souvenez-vous, Adam n'a pas été séduit. La Bible le dit, 1 Timothée 3, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite, s'est rendue coupable de transgression. Adam a suivi Ève parce qu'elle était sa femme. De la même manière, Christ n'a pas été séduit par Satan, mais il a suivi l'épouse dans la mort. Il est allé retrouver l'épouse afin de pouvoir racheter l'Église. Adam était conscient qu'il agissait mal. Alors, il a simplement suivi Ève dans sa chute, voyez-vous. Mais un agneau avait été pourvu pour eux afin de les racheter. Et pour ces agneaux, aujourd'hui, qui avaient été préconnus de Dieu et que Dieu a appelés, il y a un Rédempteur. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Est-ce vrai? Donc, il y a un agneau qui avait été pourvu depuis la fondation du monde, où leur nom avait été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Un agneau avait été pourvu pour frayer le chemin de la grâce afin que chacun d'eux aille dans la résurrection. Un agneau qui avait été pourvu, l'agneau d'Adam. Remarquez donc qu'un agneau avait été pourvu pour Adam. Eh bien, c'est l'Église aujourd'hui. Je ne veux pas dire l'Église. Vous savez quoi? Je ne dis pas ceci pour être sacrilège, je ne le dis pas pour blesser les sentiments de qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour ça, comme je vous l'ai déjà expliqué moi-même. Je suis ici pour aider. Mais ce que j'essaie de faire, vous savez quoi? En fait, toutes ces églises ne sont pas des églises. Il n'y a qu'une seule église. Tout le reste, ce sont des loges, voyez-vous? Ce sont des loges. Je n'ai rien, c'est très bien. Mais je vais vous prouver dans quelques instants que ce sont simplement des loges. Vous êtes membre de la loge méthodiste, de la loge présbytérienne ou de la loge pentecôtiste, et ainsi de suite. Oui, messieurs. Voyez-vous, vous ne pouvez pas, voyez-vous, les églises sont en réalité des loges où les gens qui partagent les mêmes idées se rassemblent. Mais l'Église est unique, et vous ne pouvez pas adhérer à l'Église. Vous y naissez, et quand vous y naissez, vous en êtes membre. Tout comme ma famille. Ça fait 53 ans que je fais partie de la famille Branham. On ne m'a jamais demandé d'adhérer à cette famille. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'adhérer à cette famille. Je suis né un Branham. Et vous naissez dans l'Église. Maintenant, toutes ces autres choses sont des loges. Y avez-vous déjà pensé? Oui, monsieur. Un jour, j'étais en train de tondre le gazon et je pensais à, eh bien, on appelle cela la grande et sainte Église catholique. Je marchais le long en large comme cela, tout en tondant le gazon. Et quelque chose m'a arrêté. Je suis devenu tout raide et cette chose m'a dit, n'appelle pas cela ainsi. J'ai regardé tout autour de moi, j'ai recommencé à tondre le gazon une fois de plus. Ça m'a arrêté et dit, ne les appelle pas ainsi. Et elle a ajouté, c'est une loge. Comme tout le reste, ils ne sont pas l'Église. Il n'y a qu'une seule Église, voyez-vous. Ils sont membres d'une loge. En effet, on peut adhérer à une loge, mais on ne peut pas adhérer à l'Église. L'Église, on y naît. On en devient un membre par la nouvelle naissance, puis on devient un membre de la famille, un frère ou une sœur en son sein. Maintenant, permettez-moi de vous lire quelque chose ici dans le emphatique diaglotte à propos d'Apocalypse 17, 3, Apocalypse selon le emphatique diaglotte que voici. Et observez simplement ceci, ce que ça dit et combien ça se rapporte si bien ça. Apocalypse 16, 17, très bien. Maintenant, lisons ici juste un instant, écoutez ceci très attentivement. Apocalypse 17, 3. Et l'un de ces sept anges ayant sept coupes vinrent et me parlèrent. Je vous lis cela du lexique. Ayant, viens, je te montrerai le jugement de cette grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. Nous savons tous qu'il s'agit du Vatican. Nous avons là, à l'intérieur, notre visiteur du dimanche qui nous vient de l'Église catholique et nous dit précisément ce qu'il en est. Notre visiteur du dimanche, voyez-vous? Et ceci lui répond en disant, mais attendez un instant, il a dit, il y a eu toutes sortes de noms, a-t-il dit, qui fera 666. J'ai dit, mais juste un instant, il a dit, votre nom pourrait faire 600. Mais ai-je dit, je ne suis pas assis sur cette colline à diriger le monde, par contre, voyez-vous? Ah oui, voyez-vous, c'est juste, voyez-vous, dans le Empicatique. Te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. Les eaux, Apocalypse 17, 5, ce sont la masse et les foules de gens, voyez-vous, avec qui les rois de la terre ont commis la fornication et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa fornication. Ensuite quoi? Il me conduisit en esprit dans un désert. Le Empicatique diaglotte à présent, voyez-vous? Et je vis la femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms blasphématoires. Or, la traduction du roi Jacques dit « pleine de noms de blasphème ». Juste un instant, je vais retrouver cela ici. Juste une minute. Apocalypse, le troisième. Très bien, le voici. Très bien. Je voulais dire Apocalypse 17 et non 7, 17. Écoutez le verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. C'est de cette manière que c'est traduit en anglais. Mais dans la version originale en grec qui se trouve dans le diaglotte, rend cela comme ceci, Apocalypse 17:3. Écoutez, il me conduisit en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms blasphématoires. Il y a une grande différence entre nom de blasphème et nom blasphématoire. Qu'en est-il? Et nous, eh bien, elle était la mère des prostituées. Nous savons tout cela. Mais de quoi s'agit-il? On n'a pas besoin d'être. Eh bien, c'est juste. Ça correspondait à l'Église catholique romaine. Mais elle est pleine de noms blasphématoires. Méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens, tous se donnent le nom d'Église de Dieu. Des noms blasphématoires. Il y a une grande différence entre nom de blasphème et nom blasphématoire. Elle se donne le nom Église de Dieu et elle se prétend elle-même devant le monde des parties de cartes, de la boisson, des mauvais comportements, des soupers où on sert la soupe et ainsi de suite. Tout y part. Il n'y a qu'une seule Église. On y naît. On n'y entre pas tant qu'on n'est pas lavé dans le sang de l'agneau et scellé par le Saint-Esprit. Quelle grande différence ça fait entre nom de blasphème et nom blasphématoire. Vous comprenez cela? J'ai saisi cela ce matin pendant ma lecture, avant que je vienne ici. Quelque chose m'a dit, va dans ta chambre et prends le diaglotte. Eh bien, c'était juste par obéissance. C'est tout. Je suis entré, j'ai ouvert Apocalypse 17. Je me suis dit, pourquoi veux-tu que je lise cela? Je me suis mis à lire. Ça m'a frappé sur le champ. C'est ça. J'ai pris un crayon, je l'ai noté, j'ai dit, c'est ça. Maintenant, les gens me crient dessus parce que je proteste contre les organisations. Il a dit, c'est un nom blasphématoire qui se font appeler Église de Dieu, Église de Christ, Église méthodiste et ces églises. Ce sont des loges et non des églises. Il y a une seule église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est? C'est le corps mystique de Jésus-Christ qui opère sur la terre, formé des membres pris de part et d'autre dans toutes ces assemblées et qui ferait partie du corps de Christ. Vous devez y entrer par une naissance et non par adhésion. Et ce à quoi on adhère, c'est au nom blasphématoire, c'est à cette femme, à sa puissance. Et vous voyez maintenant comme ils veulent prendre tous ceux qui ont des idées bizarres au sujet de la région et les envoyer en Alaska. Vous avez vu cela? Toutes nos croyances bizarres. Et qu'est-ce que c'est? Le concile mondial des églises et les églises catholiques. Ils ont leur grand rassemblement qui se tient là-bas au Vatican en ce moment où ils essaient de... Et tous ces évêques et tout qui essaient de s'entendre afin de combattre le communisme. Le monde veut combattre le communisme, mais en fait, il ne fait que se joindre au catholicisme. C'est pareil aujourd'hui, nous y voilà. Comme j'ai dit, nous sommes presque en faillite. Nous empruntons et dépensons de l'argent maintenant en comptant sur des impôts qui seront payés dans 14 ans. C'est là où nous en sommes. Qui détient l'argent du monde? L'Église catholique. Dans quel but prêtera-t-on cela aux États-Unis? Pour préserver ces entreprises qui fabriquent du tabac, des whisky et tout? Certainement, ils le leur emprunteront. Quand ils feront cela, ils vendront directement leurs droits d'aînesse à l'Église catholique romaine. Nous nous y sommes. Observez ceci, c'est très clair, plus clair que de lire un journal, vous voyez? S'ils sont méthodistes, baptistes, presbytériens et tout, ils se disent l'Église de Dieu, les catholiques et tout ce genre de choses, c'est cette puissance de la bête pleine de noms blasphématoires. Vous dites, je suis allé là, à l'hôpital, il n'y a pas longtemps. J'y allais pour prier pour une personne. J'ai dit, nous allons prier pour ma mère. Et la dame a dit, tirez ce rideau. J'ai dit, n'êtes-vous pas chrétienne? Elle a dit, nous sommes méthodistes. J'ai dit, merci. Je pensais que vous étiez peut-être une croyante. J'ai simplement tiré le rideau autour de moi. Voyez-vous? Donc, si vous n'êtes pas un chrétien, c'est différent, voyez-vous? Mais nous sommes méthodistes. C'est un blasphème. La bête, les églises, on les appelle des églises. Elles ne sont pas des églises. Je veux m'assurer que cela a bien été enregistré. Oui, elles ne sont pas des églises. Elles sont des loges. Les gens y adhèrent. Mais on ne peut pas adhérer à l'Église du Dieu vivant. On y entre par une naissance, par le baptême du Saint-Esprit. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, ses vertus sont scellées en soi par le Saint-Esprit. Et par conséquent, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne le peut pas. Vous y êtes. Oh là là. Nous pourrons en parler toute la journée, n'est-ce pas?
Oh, man. We just talk all day, couldn't we?
L'Église, c'est le corps mystique de Christ, né du souffle de Dieu. Ouf. Avez-vous saisi cela? L'Église de Dieu est née du souffle de Dieu. Dieu a soufflé son souffle dans les narines d'Adam spirituellement. Et il est devenu une âme vivante. Saviez-vous que les pentecôtistes, ou plutôt la véritable Église pentecôtiste, est née du souffle de Dieu? Laissez-moi vous le lire, quelque chose là-dessus. Juste un instant. Laissez-moi voir juste un instant. Jean, je crois que c'est là que je vais lire. Nous verrons si l'Église de Dieu existe ou pas. Jean, voyons, je crois que c'est 16, 19, 20. très bien ici. Je crois que nous trouverons cela ici. Très bien. Laissez-moi vous le lire et voyons si l'Église est née du souffle de Dieu ou pas, comme Adam l'était au commencement. Observez. Et le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté, où les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur, et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Observez, le Père qui l'a envoyé est entré en lui, et Jésus, quand il envoie un disciple, il entre en lui, c'est le même qui est envoyé. Dieu, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit, une Église née du souffle de Dieu. » Quand cette stature est façonnée là et qu'elle est prête, le souffle de Dieu souffle sur vous. Recevez le Saint-Esprit. Alors vous êtes des fils de Dieu. Vous pouvez adhérer à tout ce que vous voulez, mais dans l'Église de Dieu, on y entre par une naissance. Cette naissance, c'est par le souffle de Dieu. Dieu a soufflé sur eux et a dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Oh là là! Vous y êtes. Pas venez adhérer, inscrivez votre nom là-bas avec vos soupers où on sert de la soupe et tout ce qui va avec. Vous adhérez à une loge. Vous pouvez adhérer à la loge méthodiste, à la loge baptiste, à la loge presbytérienne, à la loge catholique ou à une loge pentecôtiste. C'est tout ce à quoi vous voulez adhérer, mais vous adhérez à une loge. Et quand vous devenez un enfant de Dieu, vous naissez du souffle de Dieu. Amen. Je ferais mieux de m'arrêter là maintenant. Très bien. La vie de Dieu se trouve en vous désormais. Jésus a dit, un instant, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Maintenant, regardez. Pourquoi cherche-t-il querelle à Jésus? Il cherchait querelle à Jésus parce qu'il était un homme qui se faisait Dieu. Il était Dieu. Dieu était en Christ, voyez-vous? Et il le leur a dit. Il a dit, « Ne regardez pas à moi. Ce n'est pas moi. C'est mon Père et il demeure en moi. » Oh, voyez-vous? Or, eux, ils regardaient ce petit corps qui était né de Marie, voyez-vous? Ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était à l'intérieur de ce corps. C'était Dieu. Il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors condamnez-moi. Mais qui de vous peut me déclarer coupable de péché et d'incrédulité à l'égard de la parole? Quelle parole prononcée par Dieu n'a pas été accomplie en moi? Le péché, c'est l'incrédulité. Qui de vous m'accuse de péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Prouvez-le-moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon... Même si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que je fais, car elles rendent témoignage. Autrement dit, le Père est en moi et il rend témoignage de lui-même. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous saisissez cela? Eh bien alors, la même vie qui est dans le cep se trouve aussi dans le sarment. Comment ferez-vous pour adhérer à cela? C'est impossible. J'ai vu un arbre il n'y a pas longtemps dans le jardin de Frère Charit, en Arizona. Il portait 9 différentes sortes d'agrumes. Qu'est-ce que c'était? C'était un oranger navel. Mais il portait un citron, une mandarine, un tangelo et un pamplemousse. Il en portait de toutes sortes. Je me suis tenu là à regarder cet arbre et j'ai dit, « Frère Charit, voulez-vous me dire que cet arbre est un oranger? » Il a dit, « Certainement. » Et j'ai dit, « Eh bien, comment ça? Comment est-ce possible? » J'ai dit, « Je vois un pamplemousse ici, une mandarine là, un tangelo ici, un citron là et tous ces autres fruits. Comment est-ce possible? » Il a dit, « Eh bien, voyez-vous, ils ont été greffés. » Oh, et je dis, « Eh bien, je veux vous demander quelque chose. Bon, vous allez cueillir ce pamplemousse et ce citron. Alors l'an prochain, qu'est-ce qui en sortira? Il en sortira certainement une orange. » Oh non, il a dit, « Il en sortira du citron, voyez-vous. » Oh, et je dis, « Je vous remercie, vous voyez. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas y adhérer. » Mais a-t-il dit, chaque fois que cet arbre vieillit d'un an, ça produit de nouvelles branches desquelles sortent des oranges, quand le cep lui-même produit des branches? Et ce que nous avons essayé de faire, c'est d'être des membres qui ont adhéré à lui, et nous vivons sous le nom de la chrétienté. En effet, nous sommes, comme on le dit couramment, nous sommes des agrumes. Ces agrumes, l'Église chrétienne. Mais quand le cep lui-même produira un cep, celui-ci sera comme le premier cep qu'il avait produit. Si à la suite du premier cep qu'il avait produit un livre des Actes avait été écrit, si jamais il en produisait de nouveau, on écrirait un livre des Actes à la suite de cet autre cep. C'est exact. Donc, vous ne faites qu'adhérer à des loges, mais quand vous êtes né du cep, vous avez un fruit. C'est exact. Vous avez un fruit, mais qu'est-ce que vous faites de cela? Vous avez l'apparence de la piété tout en reniant ce qui en fait la force. Vous reniez les signes, vous reniez les miracles, vous reniez le Saint-Esprit, vous reniez le parler en langue, vous reniez les visions, vous reniez les prophéties, vous reniez la guérison. Et cependant, vous vous donnez un nom. Ce n'est pas surprenant que le Saint-Esprit ait dit la puissance d'un groupe de gens pleins de noms blasphématoires. Certainement, ils se font appeler des chrétiens. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, car il en est parmi eux qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, agitées par des passions de toute espèce. Toutes sortes d'organisations. L'Église est tellement remplie de ces sortes d'associations-ci et cette sorte d'associations-là. Qu'en est-il de l'association de Jésus-Christ? Vous voyez, nous avons toutes ces autres choses et nous avons mis un fardeau sur l'Église. Bon, vous y êtes. Vous ne pourrez jamais adhérer à l'Église. Vous adhérez à une loge. Vous êtes membre d'une loge, d'un groupe de gens, exactement, dans une loge. Nous croyons ceci. Nous avons nos ordres. Nous avons nos secrets, et ainsi de suite. Vous faites la même chose, seulement vous avez adhéré à une soi-disant Église. Mais vous ne pouvez pas adhérer à l'Église. Vous avez adhéré à la loge des membres, mais pas à l'Église, car c'est par une naissance qu'on entre dans cette Église et dans le cep lui-même. Maintenant, attendez un instant, observez. Je vais terminer sous peu. Remarquez, excusez-moi, je n'avais pas l'intention de dire cela. Observez, regardez. Si Dieu fait fusionner cette épouse avec cet esprit, alors cela fera fusionner l'individu avec cet esprit. Vous voyez? C'est alors que vous naissez dans ce royaume-là. Alors la même vie qui était dans cette église-ci, et dans cette église-là, dans celle-là, 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 et la même vie qui était dans la tige, le cep, Jésus, est dans le membre qui l'a produit. Gloire! Alors, les mêmes choses que je fais, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voilà le véritable membre du corps de Christ, pas une sorte de nom qu'on y a collé. Les œuvres de cet individu prouvent d'où il vient, sa vie témoigne de ce qu'il est. Vous êtes membre de quoi? À quel corps appartenez-vous? Au corps de Christ. Eh bien, où y avez-vous adhéré? Je n'y ai pas adhéré. J'y suis entré par une naissance, voyez-vous? J'y suis entré par une naissance. Vous n'avez pas à leur dire, ils savent ce qui s'est passé. Vous, comment peut-on allumer une lampe et la mettre sous le boisseau, a-t-il dit, voyez-vous? Non, non. Quand on est dans ce royaume de Dieu, alors la vie même qui est en Jésus. Alors on s'intéresse aux âmes. Alors on n'a pas à supplier les gens pour qu'ils viennent à l'autel. On n'a pas besoin de supplier qui que ce soit de venir se joindre à ceux qui sont à l'autel. Oui, les choses se font absolument automatiquement parce que c'est scellé en vous. Vous êtes une unité de Dieu. Vous êtes scellé du Saint-Esprit. Eh bien, savez-vous ce que le Saint-Esprit veut dire? Ça ne veut pas dire j'ai sauté, je me suis mis à crier, j'ai eu une sensation étrange, toutes ces choses sont en ordre. J'ai sauté, j'ai crié, et j'ai eu une sensation étrange, j'ai parlé en langue, je crois que le Saint-Esprit parle en langue, certainement, j'ai interprété, oui monsieur, je crois cela aussi. Mais il ne s'agit pas de ça, ce n'est pas de ça que je parle, il peut y avoir une brèche là quelque part, il peut y avoir une brèche ici dans votre patient. Que quelqu'un vous frappe sur un côté du visage, lui présentez-vous l'autre côté, mais vous direz, quelle sale hypocrite, alors il y a une brèche qui a surgi quelque part. Il faut mieux de laisser ça de côté. Très bien. Mais vous savez ce que je veux dire. Mais quand vous êtes scellé dans le corps de Christ, alors vous êtes rempli de l'Esprit et vous êtes un fils de Dieu. Oh, j'aurais souhaité avoir environ 10 minutes de plus pour lire quelque chose ici. Alors, voudriez-vous me supporter encore 10 minutes? Je vais lire quelque chose, juste un petit peu. Eh bien, honnêtement, votre marmite ne va pas brûler. Je vous le garantis. Voyez-vous, si nous lisons ceci pendant quelques instants, c'est tellement bon que je ne peux pas laisser ça de côté. Il y a une ou deux choses qui me viennent à l'esprit dont je voudrais parler. Prenons Jean, chapitre 3, qui parle de la vie éternelle. Voyons un peu ce que cela dit de cette question de la vie éternelle, la vie de Dieu. Eh bien, maintenant, regardez bien ici. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui donc vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les miracles si Dieu n'est avec lui. » Alors eux, ceux des tribunaux du Sanhédrin, reconnaissaient qu'il était le Fils de Dieu. Ils le savaient. Voici que leur chef était là à lui dire, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que la vie même de Dieu coule en toi. » Voyez-vous? Nous savons que ton enseignement n'est pas de toi. C'est de Dieu, parce que Dieu le prouve, voyez-vous? La vie de Dieu coule en toi. Maintenant, regardez bien. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Oh là là! À moins que tu adhères à mon Église. Oh, voyez-vous comment il s'en éloigne? Voyez-vous? Voyez-vous? Alors Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai été dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut, vous voyez, je vais lire ça encore, vous voyez, je relis ça, vous voyez. Le vent souffle où il veut. Tu ne peux pas en entendre, tu peux en entendre le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il n'atteint ainsi de tout homme né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Regardez-moi ça, frère. Un docteur en théologie, un docteur en philosophie, un docteur en droit, vous voyez, et il ne savait pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Nous savons ces choses. Nous les avons vues. Nous savons cela. Et vous ne recevez même pas notre témoignage. Adhère d'Église. Voyez-vous? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Maintenant, écoutez ceci. Regardez bien. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Allez donc comprendre ça. Vous savez, une fois, il a dit, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? » Ils ont dit, « Le Fils de David. » Il a dit, « Alors pourquoi David, en esprit, lui a-t-il dit? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite. » Comment pouvait-il être son Seigneur et son Fils? Personne ne lui a plus demandé quoi que ce soit. Dans Apocalypse, il a dit, « Je suis le rejeton et la postérité de David, voyez-vous? Je suis le cep et le sarment. Je suis le commencement. » J'existais avant le commencement, j'étais le commencement et j'étais aussi sa postérité. Alors, il a dit ici, personne n'est descendu du ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. Une fois, une dame m'a posé une question, je lui ai dit, répondez à cette question. J'ai dit, qui Jésus priait-il dans le jardin de Gethsémani? J'ai dit, de qui parlait-il quand il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel? Qui? Voici qu'il se tenait là sur le toit de la maison en train de parler à Nicodème et il a dit, je suis dans le ciel. Est-ce vrai? Laissons ça pour ce soir. Qu'en dites-vous? Il s'est fait trop tard. Oh là là, je vous laisse méditer un peu cela cet après-midi. Comment entre-t-on dans l'Église? Par une naissance. Par quoi? Le souffle de Dieu. Souffle sur moi, Esprit du Dieu vivant, souffle sur moi. C'est ma prière. Laissez simplement le Saint-Esprit souffler. Oh là là, car le souffle de Dieu... Qu'est-ce que c'est? Scellé dans le royaume de Dieu, sachant qu'au début, quand j'ai fait ma confession, j'ai cru en Jésus-Christ. Oui. Alors, à ma foi, je joins la vertu divine. Et à ma vertu, je joins la connaissance de la parole. À ma connaissance, je joins la tempérance, la maîtrise de soi. J'aime ce chant. Ma patrie, c'est toi que je chante. Couronne mon âme de la maîtrise de soi, d'un océan étincelant à l'autre. Voyez-vous, la patience, oh là là, les tests, ne vous en faites pas, Satan les égrènera tous. Là, je suis en train de monter plus haut sur l'échelle, voyez-vous. J'ai joint la vertu, la connaissance, la tempérance. Maintenant, je dois joindre la patience. Jusque-là, je n'ai pas le Saint-Esprit. Après avoir joint la patience, je joins la piété. Savez-vous ce que c'est? C'est être comme Dieu, je joins ça. Je ne me conduis pas mal, j'agis comme je devrais le faire, un chrétien bien élevé. Que ce ne soit pas quelque chose de fabriqué, mais quelque chose qui est en moi. L'amour de Dieu qui bouillonne, voyez-vous? Voyez-vous? Ne dites pas, oulala, j'aurais pu le faire, mais peut-être que je ferais mieux de m'abstenir, voyez-vous? Ah oui, quoi qu'il arrive, c'est là. C'est une naissance. C'est une naissance. Je suis né dans ceci. Et alors, l'amour de Dieu, Christ descend et scelle tout cela en moi pour le service, voyez-vous? Alors, que fait-il quand il me donne le Saint-Esprit? Il vous place quelque part, vous devenez quelqu'un de différent. Il fait une marque sur vous, voyez-vous? Alors, vous êtes une personne différente. Vous n'êtes plus du monde, voyez-vous? Vous portez un vêtement différent. Vous êtes habillé différemment. Il ne s'agit pas de ce vêtement extérieur. Non, non. Vous n'allez pas être bizarre, étrange, le col tourné vers l'arrière, porter de longues tenues de cérémonie. Non, non. Ne faites pas cela. Habillez-vous physiquement comme ceci. C'est le vêtement spirituel qui compte. On vous a revêtu de l'habit de noces. Qu'est-ce que vous êtes? Comme Jésus, regardez, il avait été couvert d'une ombre et il avait été transfiguré là devant eux et ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Voilà, il était là, Jésus. Dieu plaçait son propre Fils, voyez-vous. Alors Moïse est apparu, alors Élie est apparu et Pierre a dit, « Vous savez, il est bon que nous soyons ici. Voyez-vous comment l'homme voit les choses? » Oh oui, le surnaturel s'est produit. Il a dit, « Dressons trois tentes, dressons-en une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. » Et avant qu'il ait fini de parler, Dieu a arrêté tout cela en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Toutes les choses que j'ai exigées par Moïse, que j'ai prescrites dans la loi de Moïse, la justice par les prophètes, il les a toutes accomplies. Et écoutez-le. Je vais me retirer de la scène maintenant. Et écoutez-le, tout simplement. » Écoutez-le, tout simplement. Oh là là, que c'est merveilleux. Alors, après que nous avons rempli ces conditions requises et que nous sommes remplis des vertus de Dieu et des choses de Dieu, alors le Saint-Esprit descend et nous scelle dans le royaume. Ne vous en faites pas. Tout le monde saura que vous l'avez. Vous n'aurez pas à dire, « Eh bien, gloire à Dieu, je sais que je l'ai. J'ai parlé en langue. Gloire à Dieu, je sais que je l'ai. Une fois j'ai dans son esprit. » Vous n'aurez pas à dire un mot là-dessus. Tout le monde saura que vous l'avez. Ne vous en faites pas. Oui, il rendra témoignage de lui-même. Il fera que cela se sache parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment content d'être ici parmi vous ce matin, d'avoir ce moment de communion. Écoutez, notre petite église est étroite et donc nous n'avons pas suffisamment de place pour les gens qui viennent ici. Nous ne sommes pas une organisation. Nous croyons et nous avons la communion fraternelle avec chaque organisation. Venez ici simplement parce que vous le voulez et nous vous aimons et nous voulons que chaque organisation, chaque personne, je crois que dans chacune de ces organisations, il y en a qui sont chrétiens. Ce sont des frères et des sœurs en Christ. Ainsi donc, nous n'avons pas d'attache, pas à adhérer à quoi que ce soit, rien d'autre à faire que d'être chrétien. Comme E. Edward Kendall avait l'habitude de dire, nous n'avons aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible, aucun autre credo que Christ. C'est vrai, venez nous visiter. Ça nous réjouit. Nous croyons le plein évangile, toute la parole d'un bout à l'autre. Nous croyons cela tel quel. Nous n'y achetons rien, nous n'en retranchons rien, nous n'y ajoutons rien, quoi que ce soit, quelle organisation ce soit. Nous laissons cela tel quel, c'est tout. Et nous sommes toujours heureux de vous recevoir. Venez, soyez avec nous quand vous le pouvez. Nous prions pour les malades. Nous croyons tout ce que la Bible dit de faire. Nous délaissons derrière nous nos faiblesses et nous courons vers le but, vers la vocation céleste. Bon, encore une chose, me permettez-vous de dire ça. Avant hier matin, là dehors, sur le tableau, vous remarquez qui a eu une vision. J'ai eu une vision. C'était vers 5 heures, comme le sait ma femme, là derrière, ou 6 heures. Je m'étais réveillé. Nous étions levés pour préparer les enfants pour l'école. Ces visions, je les ai de temps en temps. Et vous tous ici, chacun de vous sait qu'elles n'échouent jamais. Elles sont absolument parfaites, voyez-vous. Elles n'échouent jamais. Et j'ai pensé que j'étais la personne la plus heureuse que j'ai jamais vue. Je me tenais dans le soleil, S-U-N, et je prêchais l'Évangile à une grande et vaste assemblée. Je voulais juste voir si c'était enregistré. Une grande et vaste assemblée. Et les gens étaient assis dans une forêt. Et des rayons de soleil brillaient sur eux, ici et là. Ils recevaient cela. Il recevait la parole. Et j'étais, comme d'habitude, trop long, trop en retard. J'avais prêché trop longtemps. Et j'avais prêché si longtemps que l'assemblée a commencé à avoir faim de la nourriture physique. Et certains d'entre eux étaient fatigués. Alors, ils se sont levés, ils sont sortis pour chercher à manger. Ils ont commencé à sortir. J'ai dit, ne le faites pas, ne le faites pas. J'avais deux points culminants que je voulais atteindre dans mon sermon. Et le Seigneur me les avait accordés. Et tout prédicateur le sait, quand vous êtes vraiment convaincu que c'est le Seigneur qui vous les a donnés, vous brûlez du désir de le dire aux gens. Et je prêchais tout simplement. Charlie avait autant de force que je pouvais en rafale, vous savez. Et je disais, toutes ces choses glorieuses, ces choses que Dieu est en train de faire, regardez cela. Il discerne les pensées du cœur. Qu'est-ce que c'est, la parole? Et je continuais comme ça. Et oh, j'aimerais pouvoir me rappeler ce que je disais et le passage que j'avais lu. Je n'arrive pas à me rappeler de ça, voyez-vous? Mais je ne faisais que prêcher. Et je me voyais en train de le faire. Et donc, alors que je me tenais là, je regardais, je me voyais en train de prêcher cela. Et je ne faisais que prêcher. Et à qui voulait entendre? Et après un moment, je me suis levé, pour, vous savez, et j'ai pensé, gloire à Dieu! J'ai dit, regardez ces glorieuses choses, ceci, cela. Sur le champ, j'ai recommencé que les gens commençaient à donner l'impression d'avoir faim, de la nourriture physique. Et donc, ils avaient assez du spirituel. Alors, ils ont commencé à s'en aller. Certains d'entre eux ont commencé à s'en aller. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas chez tout ce monde? Et j'ai regardé, il y avait là quelques jeunes couples qui passaient à côté de moi. Je me suis dit, j'ai dit, un instant, mes amis, un instant. Vous reviendrez dans les ondes du soir tombant, voyez-vous? J'ai dit, vous reviendrez. Mais laissez-moi vous donner ce premier point culminant. D'où viennent toutes ces choses que je vous ai montrées? D'où viennent-elles? J'ai dit, les voici. Elles sont dans la parole de Dieu. Elles sont, ainsi dit le Seigneur, sa promesse. En effet, ai-je dit, vous me rendez tous témoignages, vous êtes témoins de ce que ma commission, c'est rester avec la parole. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas chez vous tous? Ne pouvez-vous pas comprendre la parole? Vous devez la comprendre. Et certains d'entre eux, mon vieux, j'aimerais manger du petit pain, des choses de ce genre. Eh bien, je me suis dit, eh bien, gloire à Dieu, s'ils veulent manger des petits pains, qu'ils aillent le faire. Alors, je me suis retourné, je me suis dit, oh, mais vous savez quoi? Les ondes vont tomber dans un moment tout de suite. J'ai dit, alors ce soir, quand cette assemblée sera de nouveau rassemblée, je leur donnerai le point culminant. Et je leur dirai que les choses qu'ils m'ont vu faire se trouvent dans la parole de Dieu, pas dans un livre de mythes ou dans une organisation. Ça se trouve dans la parole, voyez-vous? Tout ça, c'est dans la parole, parce que c'est ma commission. Je me suis dit, vous savez, tout le monde sera de retour ce soir, voici ce que je vais faire. Je vais donner le contexte, une sorte de contexte, vous savez, de la même manière que je fais pour les âges de l'Église et tout, et je leur dirai ce que j'ai déjà dit dans le passé. Je vais en donner le contexte à partir de la parole, et ensuite, je leur présenterai ce glorieux, merveilleux point culminant. J'ai dit, quel moment ça sera? Gloire à Dieu! Et je me suis vu en train de devenir vraiment petit, et j'ai entendu ceci. Gloire à Dieu. Je me suis vu en train de disparaître comme cela, et voici que je me tenais là. Maintenant, voici l'interprétation de cela. Voyez-vous, les premières choses que j'ai eu à faire, les choses qui ont été faites par le passé, passaient pour des mythes aux yeux des gens, de la plupart des gens. Là, je ne parle pas des gens du plein évangile et des saints de Dieu, mais je parle de la plupart des gens. Et vous n'allez pas considérer le monde, le cosmos, comme étant le message de Dieu. Quand vous allez dire, comme Bozy l'a dit, j'ai eu un songe il y a quelques années que Dieu m'enverrait à Chicago, que Chicago serait secoué pour la gloire de Dieu. J'ai dit, Joseph, il l'a déjà fait. Eh bien, a-t-il dit, ils n'ont pas été secoués depuis maudit. J'ai dit, là, je parle de l'Église, le reste, c'est de la chair à canon. C'est juste la poussière de la terre, ce groupe de gens qui déambulent dans les rues, c'est Jézabel, toute maquillée et tout. J'ai dit, tout ce qui est là dehors, ces bonnes vieilles loges et tous ces crôleront et s'éparpilleront là, sur les rues. J'ai dit, lui, il parle de l'Église, l'Église qui a vu la manifestation de la révélation de Jésus-Christ et qui l'a reconnue. Peut-être qu'il n'y en aura pas une quinzaine dans Chicago. Peut-être qu'il n'y en aura pas une dizaine dans cette génération qui sortirait de toute la ville de Chicago. Y avez-vous déjà pensé ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, où 8 personnes furent sauvées? Ah oui, combien sont sortis de Sodome? Voyez-vous ce que je veux dire? Je doute qu'il en sorte une poignée, voyez-vous. Mais l'Église elle-même a reçu la secousse. Ils ont reconnu, ils connaissaient la parole. Ils ont vu la parole quand elle était en train de se matérialiser et ils l'ont saisie. Bon, regardez donc cela un instant. Et ce premier message, quand ils l'ont vu, tout le monde s'est rallié à ça en disant, « Oh, gloire à Dieu! Oh, si je pouvais voir ceci, cela et autre chose! » Et ils sont repartis sur le champ de la même manière qu'ils sont venus, voyez-vous? Et maintenant, ils se disent, « Eh bien, je ne sais pas, où allez-vous adhérer? Si je ne me joins pas à ceux-ci, ça sera comme ceci. Si je me ferai mettre à la porte de ce côté-ci, je n'aurai rien à faire ici. Frère, asseyez-vous et dites, « Eh bien, que ferais-je si je... » Voyez-vous, ils ne s'arrêtent pas suffisamment longtemps pour reconnaître ce que la parole de Dieu a promise, qui est en train de se manifester. Voyez-vous, et ils s'en sont allés. Mais ne vous en faites pas, les ondes sont très proches. Voyez-vous, quand je suis retourné dans le champ de mission, vous rappelez-vous le message qu'il m'a donné l'autre soir, la dernière, alors que je posais la pierre angulaire, examen, Exactement, il a dit, fais l'œuvre. Il a dit, quand tu sortiras de cette vision, lis 2 Timothée 4. Vous savez, cela a été placé dans la pierre angulaire il y a de cela 33 ans. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, se détourneront des fables, de la vérité, se tourneront vers la faible si ça ne s'est pas accompli tout à fait mot pour mot. Mais rappelez-vous donc l'autre soir, eh bien, je n'avais jamais vu cela jusqu'à la fin. Pendant tous les 30 ans et plus que j'ai prêché dans ce tabernacle, je n'avais jamais lu au-delà de ce verset, je ne savais pas pourquoi. Je m'étais souvent posé la question jusqu'au jour où j'ai vu où Jésus avait pris le rouleau et s'était mis à lire. Il avait lu la moitié de la prophétie, s'est arrêté, avait dit, là, à Capernaum, il avait dit, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Pourquoi n'avait-il pas lu le reste? Cela a trait à sa seconde venue, voyez-vous. Et là, j'avais lu cela sans le savoir. J'ai pris ce passage et c'était en plein là sous mes yeux à Southern Pine, en Caroline du Sud. Ce matin-là, j'étais là dehors. Je parlais à Joseph Beauzé, appuyé sur le côté d'une voiture. J'ai saisi cela. Paul a dit, tous se sont détournés contre moi. Il n'y a personne qui soit pour moi. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et maintenant, regardez, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Regardez ce que Démas a dû penser. Eh bien, j'ai vu Paul prêcher l'Évangile, guérir le malade, et voici qu'il est là, souffrant lui aussi, traînant avec lui un médecin. Luc, partout où il va, il se fait accompagner par un médecin, lui qui prêche la guérison divine. Eh bien, je l'ai vu frapper un homme d'aveuglement. Il a dit que le Seigneur te réprime, tu seras aveugle pour un temps. Il laisse un forgeron le chasser d'une réunion. Je pense qu'il a perdu la puissance parce qu'il frappe les hommes d'aveuglement. Hélas, il a perdu sa puissance de la guérison divine. Dieu s'est détourné contre lui. Je ne pense pas que Démas soit allé dans le monde parce que Démas était, vous connaissez son histoire, il était d'une grande et riche famille. Il avait choisi de marcher avec le pas de Dieu. Il pouvait ressusciter les morts. Pourtant, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il a laissé le soldat romain arracher sa barbe de son visage, lui cracher au visage, le frapper, lui bander le visage avec une étoffe et dire, « Maintenant, tu sais, on m'a dit que tu es prophète. » Tous se tenaient autour de lui avec des roseaux. Il le frappait sur la tête. « Eh bien, dis-nous, celui qui t'a frappé, il savait celui qui l'avait frappé. » Ah oui, certainement, il le savait, voyez-vous. Mais son ministère était sur le point d'être couronné. Cela en arrive toujours à ce point-là, où ça semble vraiment, vraiment faible, pratiquement fini. Alors Dieu couronne cela. Ô Seigneur, fais que ça se produise. Fais que ça se produise, Seigneur. Inclinons la tête. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il maintenant adorons-le et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Levons les mains vers lui maintenant. Maintenant, soyez dans l'esprit. Vous voyez? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois. Du calvaire. Levons-nous maintenant. Nous allons chanter notre petit cantique que nous avons l'habitude de chanter pour nous séparer. Le premier couplet, nous le chanterons en nous serrant la main. Le deuxième couplet, nous le chanterons à Dieu. Très bien, ensuite, nous pourrons nous séparer. Maintenant, chantons. Réveille-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, ciel. Eh bien, rappelez-vous ceci. maintenant, là, je vais demander à un jeune frère, celui que j'ai rencontré dans la pièce il y a quelques instants, un précieux jeune frère, un missionnaire des Assemblées de Dieu qui travaille dans le désert là-haut. J'ai oublié son nom, je vais lui demander de terminer par la prière juste après que nous avons chanté le prochain couplet. Revêt-toi du nom de Jésus comme un bouclier puissant et quand les tentations surviennent, murmure son nom en priant. Regardez donc comment le diable s'enfuit. Voyez-vous? Maintenant, souvenez-vous, revêtez-vous du nom de Jésus comme d'un bouclier puissant. Et quand les tentations surviennent, arrêtez-vous et murmurez son nom saint en priant. Regardez ce qui va se passer. Très bien. Tous ensemble maintenant. Toi, du nom de Jésus, comme d'un bouclier puissant. Quand les tentations, alors qu'est-ce que vous faites? Murmure son nom en priant. Précieux nom, précieux nom. Nom si doux, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux. Voyez cette petite fille? Non, si doux. Viens ici, chérie. Espoir de... Pendant que vous êtes là, debout, la dernière fois que j'étais ici au tabernacle, cette mère-là ne fait que rire en montrant du doigt l'enfant. Cet enfant portait des appareils orthopédiques. La voici qui court partout et qui s'amuse très bien aujourd'hui. N'est-ce pas beau? Gloire à Dieu. Maintenant, regardez par ici. Trésor saute pour montrer à ceux qui sont là-bas combien tu peux courir partout, voyez-vous. À présent, rappelez-vous, ce soir, nous avons la communion. Non si doux. Espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom. Non si doux. Oh, espoir de la terre, joie. Maintenant, inclinons la tête et rappelez-vous les services de ce soir maintenant. Et ce soir, nous avons la communion. Vous tous, souvenez-vous-en, et vous qui êtes chrétiens, nous vous invitons à venir prendre la communion avec nous. Nous nous attendons à passer des moments glorieux. Notre précieux pasteur ici, Frère Neville, et combien aime Frère Neville? Écoutez, frère, écoutez, moi, en tant que votre, en tant que l'un des pasteurs de ce tabernacle-ci, restez attaché à Frère Neville. Restez avec lui. Voyez-vous, il est un serviteur de Christ. Restez avec lui. La Bible dit, assemblons-nous, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher ce jour mauvais. Venez aux réunions, venez, mettons-nous ensemble et restons près de notre pasteur. Voyez-vous, restez avec.
Que le Seigneur vous bénisse. La réunion est terminée.